Bonsoir, vous écoutez Radio Campus et Radio Grand Papier plus exactement, l'émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Eh bien voilà, c'est un mercredi un peu déchargé, par opposition à chargé, puisque nous sommes trois en studio aujourd'hui. Nous avons Philippe qui est là,
bonsoir.
Nous avons Johanna.
Bonsoir.
Et puis Thalie. Non, Thalie n'est pas là. Et puis, il n'y a pas non plus de Nicolas. Eh bien, malgré tout, il y aura du contenu dans cette émission, puisque à l'approche du Festival d'Angoulême, nous ne parlerons pas encore de cette grand-messe. Nous serons cependant pour réaliser quelques interviews et même vendre des livres. Mais on sera quand même là pour discuter avec des amis, même avec des gens qu'on n'aime pas spécialement. Et on va se saouler même avec des gens qu'on n'avait pas envie de voir. Nous parlerons aujourd'hui de quelques nouveautés et en deuxième partie d'émission, nous recevrons Léonie Bischoff et Thomas Gilbert et nous parlerons de La Princesse des Glaces, quoi donc, et de Oklahoma Boy qui a été republié en intégrale chez Vidcocagne. Et voilà, ils nous parleront encore d'autres choses qu'ils ont sur le feu. Eh bien, on va embrayer directement sur les nouveautés qu'on a. Il y en aura moins, forcément, puisque nous sommes noirs. Non, il y en aura quand même quatre, en fait. Et on va commencer par celle de Philippe, qui a lu pour nous « Pelote dans la fumée », et qui de Miroslav Sekulić-Struja aux éditions Actes Sud BD.
Je me demandais si c'était aujourd'hui qu'on buvait, qu'on se saoulait avec des gens qu'on...
On va le faire aussi,
ouais. Ah oui, d'accord.
Mais okay. Des gens qu'on aime.
Ah d'accord, ok, merci. Merci de ces précisions, Stéphane. En effet, pelote dans la fumée, on se demandait comment on devait le prononcer. Pelote, si c'était pelote ou... Ben, on va prononcer pelote pour plus de facilité. Donc, premier livre de Miroslav Sekulić-Struja, qui est un auteur croate de 38 ans, qui en fait se présenta un peu par hasard au concours Jeune Talent d'Angoulême en 2010 et qui termina à la troisième place. Qui, dans la foulée, rencontra Thomas Gabisson, donc, qui est un des éditeurs chez Actes Sud. Et donc, c'est ainsi, donc, un peu par hasard, que commence l'aventure de cet auteur dans la bande dessinée. Alors, Pelote dans la fumée, c'est, moi, je trouvais que ce n'était pas un objet très séduisant. C'est une sorte de grand format souple, avec une couverture assez sombre. Actes Sud est un peu, utilise de temps en temps ce format-là. Donc pas un objet très séduisant en soi, mais par contre, dès qu'on ouvre ce bouquin, dès les premières pages, c'est un univers graphique très particulier qui, moi, je trouve, explose et qui captive littéralement.
Alors, c'est très très peint en fait. Il n'y a pas vraiment de ligne au sens. C'est pas de la ligne claire, mais on a vraiment devant quelque chose qui est de la matière picturale, de la gouache ou quelque chose comme ça, assez soutenu au niveau des couleurs.
Oui, les pages, les dessins, enfin, c'est tout ça, c'est très dense, quoi, comme image. On reviendra un peu là-dessus plus tard. Alors, au niveau du récit, donc, c'est l'histoire de Pelote, qui est un jeune garçon un peu renfermé, qu'on suit dans une ville qu'on imagine être Zagreb, la capitale de la Croatie. Dans la majeure partie du récit, on retrouve Pelote et sa bande de copains qui font les 400 coups, en fait. Hein. Pelote, il doit avoir entre 12 et 15 ans, plus ou moins. Donc, ils font les 400 coups, ils vivent de petits larcins ou d'escroqueries. Ils se battent avec une bande rivale et finissent leur journée, comme tous les jours, dans un orphelinat où, finalement, la vie n'est pas plus douce qu'en ville, qu'en journée. Quoi. La vie est loin d'être rose. Le dernier quart de l'histoire, lui, est un peu différent. Il nous emmène plutôt dans les souvenirs de Pelote, de sa vie dans une sorte de bidonville qui surplombe la ville. Alors là, c'est plutôt la misère au quotidien, une vie de famille assez dissolue, avec un père qui assure pas trop. Et avec pour rare distraction l'arrivée, par exemple, des troupes de théâtre ambulants. Alors le livre se décompose en deux saisons, été et automne, et on retrouvera donc les deux autres saisons dans une seconde partie, donc c'est un diptyque. On retrouvera donc très vraisemblablement ce qui devrait être hiver et printemps, selon toute logique. Alors graphiquement, c'est, je pense, le plus intéressant au niveau de Pelote dans la fumée. Je disais, un univers qui explose, qui captive. Moi, ça m'a sauté à la figure directement, l'impression d'avoir assez rarement vu ça. chez le même éditeur, Brecht Evans m'avait fait un peu le même effet, comme ça, de tout d'un coup tomber sur un univers graphique très particulier. On a une gamme de couleurs, qui est très riche, qui est assez intense, presque solaire dans la première partie du récit, en tout cas. Et en effet, plus sombre dans la fin du récit, qui, lui, se situe plutôt en automne. Alors, Stéphane parlait, il disait que c'était très peint. Pour moi, il y a quand même une sorte de... Il y a un trait. Je trouve ce trait assez présent. On s'efface parfois derrière les couleurs, mais c'est finalement, je trouve, un trait assez précis, assez méticuleux, très fin. Il y a des grandes pages comme ça où on retrouve plein de petites choses, ça fourmille de détails, et on voit comme ça toujours son dessin, mais aussi avec un côté très expressif, surtout dans les visages comme ça, qui sont parfois pris en gros plan. C'est très expressif, je viens de le dire.
Il y a quelque chose d'assez abîmé. En fait, la plupart des gens sont abîmés, soit abîmés par la vie, mais aussi abîmés physiquement. Et donc, ils ramassent des couilles et des bagarres tout le temps. Ils s'en ramassent sur la tronche. Et la ville aussi est dépeinte comme quelque chose de sale, d'abîmé, de constamment au bord de la faillite. Et c'est très, très présent dans la manière dont c'est dessiné. De ce point de vue, la peinture est vraiment représentative et nous fait vraiment rentrer dans cet univers.
En fait, il y a carrément un côté naïf. Si l'auteur représente une maison, il va aller dessiner chaque brique de la maison. S'il représente une étagère avec des objets, on va avoir chaque objet avec chaque étiquette. Il montre... En fait, c'est vrai que cette ville, c'est vraiment un personnage à part entière dans l'histoire. Et ça nous colle un peu à la peau. Et je pense que c'est dû au fait qu'il va décrire... il va dessiner le moindre chat, le moindre recoin, le moindre papier sale, le moindre petite poubelle. Il y a quelques personnages qu'on suit, mais en fait, il y a toujours une multitude de personnages parce qu'ils dessinent tout. Et donc, il y a un côté où ça grouille constamment aussi.
En fait, il y a des histoires dans l'histoire, quoi. C'est vraiment ça. Il y a un graffiti sur un mur en arrière-plan qui va raconter quelque chose. Et puis, en effet, pendant que les trois, quatre gamins font une action en avant-plan, derrière, il y a d'autres personnages qui circulent, mais on fait attention à eux, on les regarde et on imagine un peu leur vie. Et donc, on est comme ça, toujours ballotté entre toutes ces histoires. Et c'est assez impressionnant. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait là tantôt de densité, à la fois densité par rapport à l'utilisation des couleurs, mais aussi densité par rapport à ce fourmillement de détails. Il y a une utilisation finalement assez libre du gaufrier aussi, parce qu'on a des pleines pages, et puis on a des gaufriers plus stables, et puis on passe à autre chose, tout à fait autre chose à la page suivante. Et tout ça, pour moi, fonctionne très bien, mais au-delà de ça, ça a une vraie force évocatrice. C'est rien que ça, au-delà même du récit, c'est terriblement évocateur, c'est déjà terriblement fort et narratif. Donc c'est vraiment passionnant, quoi, déjà de se plonger dans ces pages-là, à ce niveau-là. Alors au niveau du récit, des ambiances, alors... Johanna l'a dit là tantôt, c'est un récit qui, par justement ce fourmillement de détails et tout ça, déborde de vie, rempli de personnages, alors assez exubérants, assez fantasques. On l'a déjà dit un petit peu aussi, j'ai l'impression qu'ils vivent tous sur le fil du rasoir. Stéphane parlait de personnages abîmés, il y a en effet ça. Je le disais, on évoque la jeunesse de Pelote dans le dernier quart du livre, plus ou moins. Donc le passé est présent, il est évoqué. Mais j'ai l'impression que justement, c'est le présent qui écrase tout et qui écrase aussi notamment l'avenir. On parle quasiment pas d'avenir. C'est une sorte d'avenir qui n'existe pas, qui est même pas hypothétique. On a l'impression qu'il n'existe pas pour eux. Et malgré tous ces personnages sont désespérés, semblent désespérés. On le voit sur leur visage, on le sent dans la situation, on le voit dans le décor de la ville. Et pourtant, ils sont résolus. Il y a une sorte de vivacité chez eux. Il y a une sorte de volonté quand même de vivre au-delà de tout. Ils sont résolus. Et s'il y a des espoirs, je pense que c'est important de le noter aussi, il n'y a pas de misérabilisme. Malgré la partie un peu plus sombre à la fin dans cette sorte de bidonville, il y a toujours comme ça une sorte une étincelle un peu de tendresse, d'humanité, même si c'est assez cru, assez violent même parfois. Il y a toujours ça qui nous épargne le misérabilisme complet, quoi. Alors, Moi, ça m'a tout de suite évoqué plein de choses, de nouveau au cinéma. La bande-son parfaite de Pelote dans la fumée, pour moi, ce serait tout simplement celle d'Underground, d'Emir Kusturica, ou d'autres de ses films. Les dernières planches même de ces personnages qui dérivent comme ça sur une rivière font fort penser aussi aux dernières images d'Underground, avec cette scène de mariage comme ça qui se déroule sur une partie, un lambeau de terre qui se détache du reste. Donc c'est pour moi Underground et Pelote dans la fumée sont deux œuvres qui sont traversées par le même souffle. Mais ça fait aussi penser plutôt au cinéma italien des années 60-70, à Affreux, sale et méchant de Torricella, à Marcord aussi, ou Des nuits de Cabiria de Fellini, avec cette description, comme on le disait tantôt, à la fois très féroce, mais aussi très tendre, du petit peuple, des marginaux, de la vie de misère. C'est toutes des choses comme ça qui résonnent fort dans ce bouquin-là, et tous des ingrédients qu'on retrouve chez Sekulić Strugia. Donc voilà, moi je trouve vraiment un premier essai, vraiment un bouquin vraiment très très intéressant. Je suis très curieux de voir le second, parce que là on a une vraie surprise, on a quelque chose d'assez fort, donc je suis curieux de voir ce qu'il pourra faire dans le second. Et je finis juste en soulignant le travail d'Actes Sud, plus de l'éditeur, Actes Sud, un éditeur qu'on aime, je crois qu'on aime bien ici dans l'équipe, mais qui a vraiment le chic pour dégoter comme ça des talents internationaux assez remarquables et assez surprenants. On a parlé de Ruth Modan, qui est israélienne, il n'y a pas longtemps, Brecht Evans, plus proche de chez nous, il y a maintenant 3-4 ans. Il y avait le russe Nikolai Maslov, les italiens J.P. ou Gian Deli, l'américain Anders Nielsen, tous des auteurs qui sont passés quasiment au début de leur carrière, voire qui ont fait des bouquins que chez Actes Sud. Et je pense que Sekulić Strugia pourrait se rajouter dans cette liste déjà assez costaud d'auteurs comme ça, vraiment assez importants et à suivre dans les années à venir.
Ok.
Joanna ?
Non, j'ai rien à ajouter.
Rien à rajouter ? Ok. On peut juste dire qu'au niveau aussi, si ce premier opus nous tient en haleine, c'est aussi parce qu'on nous annonce comme ça, comme une lame de fond, que Pelote, il est décrit par une voix off qui dit à ce moment-là, Pelote n'était encore rien, elle était encore un enfant. Et il est très très passif dans ce premier numéro. C'est beaucoup les autres personnages qui agissent. Et lui, grosso modo, il sniffe de la colle. Donc c'est le truc qui semble être la chose qui le remplit le plus de joie. Et donc il est dans une attitude de passivité. Mais en même temps, alors qu'il est un personnage plutôt secondaire, toute la voix off nous le présente comme étant le personnage principal. Et donc on imagine que l'hiver et le printemps vont être le moment d'une forme de révélation. Et donc du coup, on est tenu un peu en haleine. Bien, donc c'était Pelote dans la fumée de notre ami Miroslav, c'est déjà un ami, hein, Sekulić Strugia. Nous allons enchaîner avec notre ami, car c'est aussi notre ami Johanna, qui va nous parler de Lâcher prise de Myriam Katine chez Futuropolis.
Voilà, exactement. Alors, c'est l'adaptation française de Letting It Go, qui était sortie chez Drone & Quarterly il n'y a pas si longtemps, en mars 2013 a priori. Donc Futuropolis reprend ce récit, le réédite en français. Alors, qui est Myriam Katine ? C'est une auteure qui n'est pas toute jeune, car elle a 70 ans, si je sais à peu près calculer. Elle est née en 43, elle est d'origine hongroise et elle a fui l'invasion nazie avec sa mère. Ce sera important pour la suite. Alors, c'est une femme qui a démarré la BD un peu par hasard à 58 ans. Alors ça, je l'ai appris en lisant l'entretien qu'elle a eu avec Nicolas, et c'est un entretien qui est lisible sur le site du Neuf. Et donc c'est une femme qui travaillait en animation, et puis elle s'est mise à la BD un peu par hasard. Et alors ce qu'elle a trouvé dans la BD, c'est une manière de raconter une partie de sa vie, et évidemment ça touche à cette fuite de la Hongrie et les souvenirs qu'elle a de ce passage plutôt rude. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Lâcher prise ? Donc, c'est assez bizarre comment on plonge dans l'histoire. En fait, l'histoire balbutie un peu au départ. Les premières pages, on voit que l'auteur cherche un peu, ne sait pas trop par quel bout prendre le problème. Et puis, au bout de 20-25 pages, bon, il y a des choses qui sont installées, évidemment, on s'ennuie pas. Mais au bout de 20-25 pages, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend en fait que son fils, qui part en vadrouille à travers le monde, les contacte pour leur annoncer qui compte s'installer à Berlin. Et pour une juive hongroise qui a fui le nazisme, eh bien, c'est vécu comme une profonde trahison. Et Et voilà, c'est alors en plus, en lisant l'interview de Nicolas, donc c'est autobiographique, et donc ce moment-là de sa vie où son fils lui annonce réellement qu'il part vivre à Berlin, elle a une actualité, elle sort la BD Seule contre tous qui raconte sa fuite, voilà, comment elle échappe au nazisme. Et donc, vous me déconcentrez les gars.
On a un petit problème technique.
Ils sont en train de se passer des petits messages. Alors, donc, et voilà, donc elle sort ce bouquin où elle raconte cet épisode de sa vie douloureux. Et son fils, lui dit, alors qu'ils vivent aux États-Unis, lui dit, voilà, je vais vivre chez les Allemands. Et donc, voilà. Et ce sentiment, c'est ça la chair de ce livre, c'est que ce sentiment, elle l'expose, elle en parle, elle le vit, elle essaye d'en parler avec ses amis, avec son mari, avec sa propre mère.
Elle le fit, même, si je puis dire.
Elle le fit, tout à fait. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non. On aurait tendance à dire que, voilà, c'est pas politiquement correct d'avoir un ressentiment contre une nation, contre l'Allemagne d'aujourd'hui, en plus. Donc ça n'a vraiment pas de sens. Même sa propre mère, qui, elle, a vécu le nazisme dans sa vie d'adulte, lui dit, mais c'est très bien qu'il s'installe en Europe. Donc elle montre aussi cette solitude, parce que tout le monde lui dit gentiment, écoute... T'exagères, là. Et elle est embarrassée par ce sentiment. Ça la bouffe, ça la rend malade. Elle picole pour faire passer ça. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et alors, le couteau dans la plaie, c'est que son fils lui demande, en plus, pour faciliter le fait qu'il puisse s'établir à Berlin, lui demande de lui remplir des papiers pour qu'il puisse avoir cette nationalité hongroise. Donc, pour elle, c'est vraiment difficile. Et ce que je trouve beau dans ce livre, c'est vraiment comment ce sentiment... Elle le fait exister, voilà, elle assume, quoi. Oui, elle a un problème avec les Allemands, c'est lié à son vécu. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, elle va essayer de surmonter ça, parce que ça la tracasse énormément. Et puis, elle va aller en Allemagne, et puis elle va devoir admettre qu'elle est plutôt pas mal séduite par cette société allemande. Et puis, voilà, et puis ce sentiment, ben, plutôt que de le chasser à grands coups de fouet, elle l'a laissé vivre, et puis il s'est éteint tout seul. Et c'est ça que je trouve... vraiment beau dans ce livre. Un bel exemple qui montre que le ressentiment, ça se soigne. Donc ça, c'est au niveau du contenu. Et alors après, au niveau du graphique, on a un dessin, plutôt au crayon de couleur, très énergique, c'est très rempli, c'est des pages assez flottantes, pas du tout conventionnelles, on n'a pas du tout un gaufrier ni quoi que ce soit. Ça déborde d'énergie, il y a toute cette angoisse qu'elle ressent, qui passe dans le dessin. Je trouve ça vraiment très beau. Moi, ça me fait penser, pour parler d'un autre médium, ça m'a fait penser à Joanna Quinn, qui est une réalisatrice d'animation. Alors, autant elle ne touche pas du tout aux mêmes thématiques, mais dans son dessin d'animation, il y a cette même nervosité, cette façon d'utiliser la couleur. Il y a une certaine forme de joie aussi. Faut dire que c'est un récit où il y a aussi un peu d'humour quand même. C'est quelqu'un qui a pas mal de second degré envers sa propre personne. Et puis, j'ai aussi pensé à Joyce Farmer, qu'on avait chroniqué, je pense, il y a au moins 2 ans. Pas parce que c'est aussi une vieille auteure, mais plutôt parce qu'il y a un côté, une manière de faire de la BD qui est un peu débarrassée de concessions, qui a un côté maladresse assumée, comme ça. Je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle se mette tardivement à faire de la bande dessinée, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un air de famille. Je mettrais juste un bémol, mais bon, ça n'empêche pas d'apprécier le livre, mais la maquette de Futuro est quand même assez dégueu. Surtout quand on regarde l'original. Alors, bon, déjà, la couverture, elle n'est pas très... je trouve qu'elle ne met pas vraiment en valeur le travail de Myriam Katine. Et alors, ils ont pas vraiment relettré. Il y a une qualité dans l'écriture qui fait partie de la mise en page, en fait. L'écriture de l'auteur, elle fait partie du dessin. Et donc, au moment de la traduction, plutôt que de relettrer, j'imagine que c'est un énorme boulot, mais bon, ils ont remplacé par une typo façon écrit un peu à la main. Mais voilà, ça donne... je trouve que ça casse. Ça casse vraiment le... Je sais pas, il y a un côté indigeste avec cette typo. C'est vraiment dommage. Donc, pour les gens qui sont anglophones, je leur conseille d'aller plutôt vers la version de Drone and Quarterly, qui est beaucoup plus belle, en fait.
Et pour ceux qui sont francophones, n'ouvrez pas comme moi le bouquin en anglais, parce que du coup, en effet, on regrette de l'avoir fait.
Voilà.
Il est plus beau. Oui, je pense l'avoir déjà dit en 2000. 2013, mais Futuropolis, comme d'autres éditeurs, nous assomme avec cette mode de BD réalité depuis maintenant un an et demi, avec beaucoup de bouquins vraiment pas très intéressants, surtout en fait assez froids, désincarnés, trop sérieux, pompants même. Et ici, voilà, c'est un des, je dirais pas un des rares exemples, mais oui, on peut peut-être presque le dire dans les sorties de Futuro ces derniers mois. L'exemple tout à fait inverse, tu l'as dit, Johannes, c'est pas policé. C'est un livre qui est plein de cœur, qui est plein de chair, qui a un traitement très juste par rapport à un sujet douloureux comme ça. Et voilà, c'est pour ça, c'est de la. C'est de la toute bonne BD réalité, comme on appelle ça maintenant.
Bah, je trouve qu'il y a. C'est très touchy, évidemment. Qu'est-ce que c'est ce ressentiment qui se justifie assez mal. Mais je trouve qu'il y a de la sagesse dans, dans cet aveu qu'elle fait et qu'elle dessine. Quoi. Je trouve que c'est quand même.
Mais tout ça, tout ce que tu as expliqué est. Ça sort des pages, ça dégouline. Alors que souvent, on se retrouve face à des bouquins qui expriment presque la même chose, mais avec une sorte de distance et de froideur qui fait qu'on ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et avec ce côté, comme tu dis, politiquement correct, où finalement, c'est pas très, très intéressant. Alors qu'ici, voilà, quand je disais, elle en chie même de son ressentiment. C'était un peu grivois, mais en effet, c'est ça physiquement. Il y a quelque chose d'assez dur et voilà, c'est vraiment.
Oui, il y a Erwin Dejas m'avait dit une fois qu'il s'intéressait juste maintenant le corpus qu'il constituait était massivement composé de bouquins d'auteurs. Il considérait que les personnes, par auteur, il entendait des personnes ayant à la fois écrit et dessiné un livre. Bon, il y a des exceptions notables, c'est quelqu'un qui travaille sur Munoz et Sampaio, et ici, on voit la pleine justification de ceci. C'est-à-dire qu'en effet, le fait qu'on ait une parole proche est dû au fait qu'on sait que ceci est dessiné et écrit par la même personne. Et donc, on est aux prises avec une expérience qui s'exprime par le dessin. Et comme c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'animation, je ne sais pas il y a une forme d'osmose, et son dessin est un dessin, en effet, très proche de l'animation, très libre, très rapide, qui traite très bien du mouvement, et ce genre de choses. Du coup, on a quelque chose d'assez dynamique, et dans les mouvements de colère, si vous avez la version anglaise, le texte lui-même est en colère, c'est-à-dire qu'il remplit les pages, il déborde, etc. Donc voilà. Ok, nous allons prendre une première pause musicale avec Jean Mikili qui nous chante Les Comores. Et voilà une chanson bien joyeuse qui remet du baume au cœur alors que le temps est vraiment dégueulasse dehors. Et que la nuit tombe, et les éclairages sont jaunes et reluisent sur le pavé.
Arrête, mais tu vas déprimer les auditeurs.
Pas du tout, parce qu'ils écoutent ton podcast pendant l'été, et donc là, il fait super chaud. Alors, c'est à mon tour de vous présenter « Désagréments d'un voyage d'agrément », qui est un livre paru chez 2024. C'est un livre de Gustave Doré, et qui est une réédition, puisque l'original date de 1851. Ben oui, Gustave Doré, ce n'est pas un jeune auteur. Alors, ce livre se présente comme l'œuvre de César Plumet, qui est un passementier. Alors, un passementier, j'ai été revoir, c'est en fait un marchand de broderie, de textiles décoratifs, donc c'est un petit bourgeois. Et il est publié, donc, à l'époque, sur les recommandations d'un certain Gustave Doré. Donc, il y a déjà une mise en abîme qui est faite par Gustave Doré, puisqu'il prétend que ce livre est en fait une forme d'autobiographie, un carnet qui aurait été fait par un personnage qui aurait... Voilà. Alors, c'est Gustave Doré, évidemment, derrière. C'est lui qui signe toutes les pages, d'ailleurs. Si on regarde un peu, il n'y a pas le moindre doute sur qui a fait quoi. Et voilà. Et à l'époque où il dessine ceci, il a à peine 19 ans. Donc, au moment où est publié le livre. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Bien, c'est César Plumet, qui est un bourgeois fraîchement retraité, et qui cherche une occupation. Voilà. Il y a la suite d'un spectacle sur Guillaume Tell. Donc, vraiment, on est dans le fortuit total. Il décide de casser sa tirelire, physiquement, puisqu'il a une espèce de tirelire dans laquelle il a épargné pendant toutes ses années de travail, pour partir avec sa femme, qui s'appelle Vespasie, pour la Suisse. Il veut marcher en montagne et ressentir le fameux sentiment de sublime qui est promis par les peintures de Caspar Friedrich. Mais César verse régulièrement des larmes de déception, tant ce qu'il vit n'est pas à la hauteur de l'image qui s'en est fait. sa femme est vraiment effrayée, elle parle les paysans, parle des difficultés du voyage, et ça coûte une fortune à César, car elle doit se reposer, il faut construire un pont, et elle n'a qu'une seule envie, c'est rentrer à Paris. Mais voilà, César est volontaire et il entend faire tout le catalogue du voyage tel qu'on le décrit dans les livres. Il veut marcher au grand air, il veut rencontrer des gens simples mais braves, il veut dessiner même. Et il va faire ça jusqu'à ce que sa bourse soit totalement vidée. Alors Gustave Doré, c'est une grosse figure, mais qui est cet auteur en fait ? J'ai relu la biographie donc du coup de ce gars et en fait c'est assez étonnant. Il faut savoir que c'est un génie de l'illustration. J'aime pas le terme génie, mais en fait dans ce cas-ci, il est relativement approprié puisque à l'âge de 8 ans, il n'est pas déjà tout le monde avec ses caricatures en classe. À 12 ans, il fait son premier bouquin qui sera publié quelques années plus tard. Et il est invité, grâce à quelques illustrations, à Paris, alors qu'il vit à Bourg-en-Bresse, par l'éditeur Philippon, qui lui signe un contrat exclusif sur 3 ans pour le journal Pour Rire. Donc c'est des journaux de caricature tels qu'il en existait beaucoup au milieu du 19e. Alors il va aiguiser son talent dans les revues de satire et de caricature. Ça se vend très très bien à cette époque. Et il y a une grosse concurrence entre elles. Hein. Blotch en parle beaucoup quand il parle de Blotch, son personnage fictif. Et voilà. La mauvaise foi, le jugement facile, les caricatures vraiment avec gros nez, grosses joues sont et toute l'ironie qui va avec fonctionne très bien à l'époque. Et Gustave Doré est vraiment un virtuose de dessin. Il domine ça à mort. Et donc il va devenir vraiment une méga star. International de ce style. À partir de 1856, il va abandonner la caricature pour devenir vraiment un illustrateur et s'attaquer au boulot des grands auteurs. Et il va travailler avec des romanciers contemporains et légèrement passés. Et il va devenir la star que l'on sait grâce à cette deuxième partie de la carrière. Donc voilà, c'est un gars qui a été porté au firmament, réédité, réédité. Un très beau travail donc. Alors, ce bouquin, qu'est-ce qu'il y a de saillant dans ce bouquin ? Il faut savoir que voilà, il est au milieu de cette carrière de dessinateur. Il y a encore un boulot en bande dessinée qui va se faire après, mais la bande dessinée en tant que telle sera abandonnée par Gustave Doré. C'est la raison pour laquelle 2024 prend ce livre-là. Et il est au cœur de ce livre, il y a deux choses assez importantes. Il y a un mépris. Vraiment un foutage de gueule de grands classiques de l'époque qui, d'une part, sont Le Petit Bourgeois. Alors, que l'on pourrait rapprocher de la classe moyenne des années 60, hein, c'est des petites gens avec un peu de moyens financiers et pas vraiment de culture pour en jouir. Alors, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, les aristocrates méprisent les petits bourgeois. Les classes populaires, la jalousent, mais en même temps, ils trouvent qu'ils n'ont pas la street credibility qui ferait bien se taire. Bref, personne n'aime le petit bourgeois. Et oui, il a raison de le faire. Hein. Le petit bourgeois préfigure la société des loisirs, le petit pavillon, les santons, les statuettes de Hollandais en sabots fabriqués à la chaîne et achetés en vacances, les guides touristiques. Et ce moment de l'histoire où les petites gens ont senti qu'elles pouvaient espérer quelque chose d'autre dans l'existence, mais qu'elles ne savaient pas encore très bien quoi. Alors qu'on se rassure par rapport à ça, le clivage social revient tellement en force ces dernières années qu'on pense bien que bientôt les pauvres resteront pauvres toute leur vie et comme ça, la grande bourgeoisie sera bien à l'abri de ce genre de personnages. Alors, le petit bourgeois, on l'a compris, c'est un con. Et Doré fait son décollage dans les journaux satiriques où il rit de ce type de personnage. Et il faut que le lecteur ne se sente pas visé directement. Et donc, c'est un personnage en or. Alors, pour paraphraser des proches qui disaient « L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui », eh bien, le con, c'est toujours l'autre. Et les journaux satiriques le savent. La méthode de Doré est un peu cafouilleuse, en fait, dans ce bouquin, un peu au début. Hein. Il va raconter le voyage en Suisse par le biais de son héros. César Plumet, voilà, il n'a pas les moyens de vivre ses vacances sur un grand pied, ce qui l'oblige à brader ses expériences. Il n'a pas la culture pour confronter ses expériences à ses connaissances, et donc c'est un peu plat. Et il n'a pas la créativité qui lui permet de ressentir les émotions fortes à la vue des paysages sublimes de la montagne suisse. Donc il rate un peu tout, quoi. Alors il faut noter à ce propos que le romantisme finissant dans lequel prend part ce bouquin domine à l'époque où il est fait et que Doré, il est fortement influencé par les valeurs de ce mouvement. Il adore la montagne par exemple. Et il y a donc une part d'autodérision dans le récit, mais surtout un très très grand mépris assez commun à l'époque aussi, pour la démocratisation, on dira même la vulgarisation du romantisme, qui permet à tout un chacun de vibrer devant la puissance d'un orage et ce genre de choses. La fin du récit montre d'ailleurs une horde de touristes qui débarquent, des femmes névrosées qui écrivent côte à côte dans des auberges sur des, qui s'adonnent à la difficulté de la lecture, de l'écriture, etc. Et donc, voilà, il montre ça vraiment comme une forme d'horreur. L'amour, c'est l'infini ami à la portée des caniches, disait Céline et Karl Rosens. Eh bien, c'est un peu ça qu'on retrouve un peu dans ce roman. Alors, ça nous amène au deuxième sujet de moquerie de ce bouquin, qui est le touriste. Alors, le 19e siècle, on l'oublie tout le temps, mais c'est le moment où on invente le tourisme. L'idée d'aller se balader ailleurs, l'intérêt pour les voyages. On commence à trouver nombre de récits qui sont racontés, et ça préfigure les soirées diapositives des années 70 et la photographie d'assiettes de restaurants d'Instagram aujourd'hui. La photographie accompagne ce mouvement, puisqu'on va avoir même Maxime Ducamp qui va photographier l'Égypte en 1848, donc exactement les mêmes années, accompagné de Flaubert d'ailleurs. Et les mêmes années, on va trouver donc un bouquin comme celui de Désagrément. Alors, la méthode de Doré, on l'a dit, elle est cafouilleuse, parce qu'il passe d'un registre à l'autre, il y a un peu. Il débute par le récit en présentant une situation et un personnage, donc de manière assez classique. Puis, il nous dit que c'est en fait, à la page suivante, on va trouver le récit dessiné par César lui-même, par ce petit bourgeois. Mais en même temps, il continue à signer Gustave Doré, et parfois, il met des notes de l'éditeur dans le bas des pages. Et donc, et en même temps, le style ne change pas, c'est du Gustave Doré du début à la fin, donc il ne joue pas sur des ruptures stylistiques pour nous placer à un monde puis à un autre monde. Il n'abandonne jamais la paternité de son œuvre. Mais c'est ce tâtonnement-là et cette inventivité un peu débridée qui fait le caractère du jeune Doré. Donc à l'époque, il y va tout azimut. Et ce bouquin, donc, il y a un côté un peu hybride, un peu mal foutu, mais qui du coup est assez génial. 5 ans plus tard, il abandonnera la caricature, comme on l'a dit. Et donc, il va faire de grandes illustrations. Et ici, on a encore quelqu'un d'un peu fougueux, d'un peu jeune. Il s'en prend d'ailleurs, il est un peu critiqué pour la manière dont il travaille. Mais en même temps, il est adulé vraiment. Déjà à l'époque, il se place lui-même dans le récit et à un moment donné, le personnage du petit bourgeois va le trouver et dire « Mon Dieu, vous êtes Gustave Doré, vous êtes génial, vous êtes tellement fort que votre peinture ressemble à des caricatures », ce qui lui vaut un coup de pied au cul. Donc voilà, et c'est bien d'une certaine manière que ce soit un gars au jugement péremptoire, à la raillerie facile, mais voilà, il est agité encore par des contradictions, ce qui ne sera plus tard. Alors, signalons pour terminer que Gustave Doré fait partie d'une grande tradition des auteurs qui auraient voulu être des artistes. Il aurait voulu être peintre, en fait, et sculpteur. Et chaque fois qu'il a peint et sculpté, on lui a dit « Oh, ça ressemble à une BD agrandie », exactement comme on le dit à Loustal. Et je peux vous dire que ça lui faisait très, très mal.
Oui, tu parlais de ce côté un peu foutraque. Moi, c'est ça qui fait, pour moi, un élément assez moderne de ce bouquin. C'est qu'il y a des changements de ton, c'est qu'il y a pas mal de dérision, d'ironie. Il y a ce personnage qui rencontre son créateur, son auteur. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a pas mal d'humour aussi. Le comique de répétition avec cette scène où le personnage est couché dans ce lit avec sa femme qui revient de manière assez fréquente. Il y a une case non remplie par manque d'imagination de l'auteur en page 20.
Il faut dire qu'avant cette case, l'autre prend quand même les 2/3 de la page et ultra dense.
Oui, tout à fait. Mais donc voilà, il note ça et c'est vraiment drôle, ça marche. Et j'ai bien ri aussi quand on voit une énorme langue de vache à la page 21 qui vient lécher le dessin en fait. Donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'on se rend compte vraiment de l'importance de Doré, parce qu'il y a un texte, je pense, en postface, oui, qui explique son importance. Ça a été fait, je pense, en collaboration avec les musées de Strasbourg. Et du coup, voilà, il y a cette postface sans doute indispensable, qui est prévue dans le projet. Mais c'est vrai que quand on lit le bouquin, finalement, on se rend compte, en effet, de ça. On se rend compte de cette modernité et de cette omniprésence de l'humour et de la dérision. Et moi, finalement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce bouquin. À signaler aussi que... L'autre bouquin qui est peut-être considéré comme son petit chef-d'œuvre, qui est Histoire dramatique, pittoresque et caricaturale de la Sainte-Russie, lui sortira, je pense, en janvier-février, en tout cas maintenant, dans les semaines qui viennent. D'accord. Parce que le bouquin ici qu'on chronique est lui sorti, je pense, en novembre, mi-novembre, quelque chose comme ça. Mais le deuxième, je pense, il y en aura deux. En tout cas, le second arrive ici dans les semaines qui viennent, donc voilà, pour les amateurs.
Et alors, pourquoi on se réjouit aussi que 2024 fasse ce genre de sortie? On l'a déjà dit, on a déjà parlé de cette maison d'édition. Ça fait partie des gens qui apportent un soin très, très, très particulier à l'impression, à la maquette et à l'objet en général. Là, on parle de Gustave Doré et tu l'as dit, c'est un peu un génie du dessin. Le rendu du dessin est très bien. Au-delà du récit et tout, c'est quand même un plaisir de pouvoir regarder. Moi, ce livre, je l'ai feuilleté, refeuilleté, parce que ce dessin, il est incroyable. Donc voilà, on est content que ce soit bien imprimé. Et puis la maquette est très belle. Il y a un soin particulier.
C'est de la lithographie, c'est la spécialité à l'origine. 2024. Donc ça veut dire que ça a du crayon sur pierre, donc il y a une forme de richesse comme on pouvait peu de choses à l'époque. Il n'y avait pas des masses de méthodes de reproduction un peu qui permettaient un peu de finesse dans le rendu, et la lithographie était celle qu'il fallait dans ce cas-là. Et il l'a utilisé depuis l'âge de 12 ans, donc il a déjà une maestria dans ce travail au moment où il dessine ceci, alors qu'il a il a 18 ans. Et il y a donc une légèreté du trait, et en même temps, il sait comment dessiner un corps, comment le caricaturer, comment rendre ridicule un personnage juste par quelques traits. Je voulais juste terminer par lire quelques cases, parce qu'il faut dire aussi que Gustave Doré a écrit les textes. Il avait une écriture assez volubile. Il a arrêté d'écrire totalement à quelques années plus tard pour se consacrer uniquement à l'illustration de textes d'autres. Mais voilà, et donc ici c'est assez proche, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à la haine de la vulgarisation du romantisme. Il dit, cependant, on s'approchait de plus en plus du Mont Blanc et je sentis que c'était le moment ou jamais d'être inspiré. L'inspiration n'arrivant pas, j'avais soin de me prosterner. Tant de beauté me firent comprendre la grandeur de l'existence et j'entrais à Chaumigny, fier d'être un homme. Aussi, je dévorais d'un seul coup 2 gigots de mouton et 3 chamois rôtis. Le soir, grande discussion avec Vespasie sur les passementeries genevoises. Donc, retour aux petites affaires. Donc voilà, c'est donc un bouquin qui est beau, qui se feuillette, qui se garde en bibliothèque et qu'on peut sortir pour ses amis, pour les épater. Donc on remercie nos amis de 2024 de faire ce travail d'historien qui était autrefois dévolu à quelques autres éditeurs, parfois au talent plus discutable en matière de mise en page. Alors, pour terminer ces nouveautés, on va maintenant en parler inopinément, puisque normalement c'était Thalie qui nous en parler, mais elle n'est pas là. Et donc, pour lui faire honneur, nous parlerons donc de Baby Boom, de Yishi Yokoyama. Et Philippe et Johanna ont attentivement lu dans le but de nous en parler prestement.
Allons-y. Et donc, on va reprendre un peu le boulot de Thalie, là où elle l'avait laissé pour aujourd'hui. Moi, juste, en fait, j'ai découvert Yushi Yokohama il y a quelques années. J'ai découvert un de ses bouquins dans un rayon bande dessinée. C'était Voyage, je pense, à l'époque. Et puis, ça m'a interpellé d'abord parce que c'était un nom japonais qui n'était pas dans le rayon manga et que c'était pas Taniguchi. Je me suis dit, tiens, il y a un autre japonais comme ça qui est dans le rayon BD. C'est bizarre. Et puis, je vois Édition Matière. Bah, voilà, c'est encore un éditeur que je connais pas trop non plus. Et avec des bouquins finalement assez simples, mais avec des couvertures qui, à chaque fois, interpellent. Donc c'était vraiment une surprise de tomber là-dessus. Les éditions Matière, dont on parle peu, c'est un éditeur qui est vraiment à la frontière entre bande dessinée et art contemporain, qui évolue dans les deux domaines. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'infos sur le net. Alors donc, Yokohama, en effet, quelques mots sur lui avant de parler plus précisément de Baby Boom. Donc il est né en 1962, il a fait des études d'art plastique. Et c'est ça le lien avec les éditions Matière. Il veut devenir peintre, mais après des études, très peu d'argent, tout petit appart, pas de place pour peindre chez lui, pas le matos, pas l'argent non plus, pardon, pour acheter du matos. Et donc c'est un peu par hasard, finalement, on parle pas mal de hasard ce soir. Un peu comme Sekulich Trudja aussi, et quelque part Myriam Katine. Donc notre ami Yokohama, tout le monde est notre ami ce soir, Yokohama se met à la bande dessinée. Alors, il commence à faire du manga en 2000. Et même si ces mangas, ont, on va en discuter plus tard, ont un côté assez expérimental, finalement, il respecte quand même pas mal de règles fondamentales du genre. Il a en effet commencé à faire des mangas en lisant un manuel de manga pour amateurs. Donc, c'est quelque chose qu'il a guidé, en tout cas, dans ses premiers pas. Alors, son boulot, donc, c'est celui d'un artiste contemporain, mais qui utilise le livre comme moyen d'expression, à défaut de mieux peut-être pour l'instant, même si en fait à la sortie de chaque bouquin, il y a pas mal de sérigraphies, beaucoup d'expos finalement qui accompagnent le bouquin.
Encore donc, un peintre frustré.
Encore un peintre frustré peut-être. Mais donc voilà. Alors Baby Boom. Alors c'est... Ses précédents ouvrages avaient, donc dans ses précédents ouvrages, on a notamment Voyage, Combat, Jardin, Travaux publics. C'était des bouquins qui se manifestaient par un trait très géométrique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans Baby Boom, Patatras, on a tout à fait autre chose. Son dessin est beaucoup plus libre, presque à l'état d'esquisse. Alors, en même temps, il reste soutenu. Moi, j'apercevais comme ça, sous les esquisses, finalement, des aspects géométriques, mais qui venaient plus soutenir, j'ai l'impression, presque structurer ce dessin beaucoup plus libre.
Est-ce qu'on peut pitcher ce livre? Est-ce qu'on peut dire ce qu'il y a dedans?
On peut, ouais, on peut le pitcher. Ouais. Pitchons-le. Baby Boom, c'est un recueil de toute une série de petits récits. On va retrouver deux personnages récurrents. On va trouver un oiseau qui est un animal à tête noire. Alors, on peut y voir le personnage de l'auteur. Et puis, on va y retrouver un poussin qui, lui, fait fort penser à un bébé, à un enfant, d'où le titre. Et donc, on va retrouver ces deux personnages qui s'adonnent à plein d'activités qui sont liées au monde de l'enfance, que ce soit l'ingestion d'un biberon, que ce soit le jeu, il joue dans un...
Oui, a priori, c'est le papa oiseau et bébé poussin, quoi. Ça commence par le biberon, puis la bouillie, puis en fait, très vite, ce poussin grandit, hein, quand même. Mais...
Voilà, et donc...
On a ce rapport-là, en fait.
Pour ceux qui ont déjà joué à la console Nintendo, le personnage du bébé ressemble un peu à Kirby. Petite note.
Et donc on retrouve ces personnages qui se retrouvent dans un parc, qui vont dans un parc d'attractions, qui font du camping, qui font toute une série d'activités comme ça. En fait, moi, quand je vois Yokohama, mais même ses travaux précédents, j'ai l'impression que chaque forme, chaque objet, chaque lumière est sujet à devient un sujet, peut devenir un sujet chez lui, que ce soit une canette, que ce soit un lampadaire, que ce soit un escalier, que ce soit une chaise. En fait, le monde entier peut devenir une matière chez lui à faire des récits. Donc c'est assez surprenant. Et donc dans ce Baby Boom, il y a comme ça ces deux personnages qui évolue, et il y a beaucoup de spontanéité, à la fois dans ce trait, mais à la fois aussi dans leurs actions. Il y a le jeu des couleurs aussi. Johanna, tu peux peut-être toucher un mot sur ce plus au niveau du dessin.
C'est vrai que c'est le premier, quand on ouvre ce livre, avant de piger qu'il y a un récit ou qu'il y a des personnages récurrents et tout ça, la chose qui saute aux yeux, c'est l'aspect graphique, parce que donc on a... Moi, je trouve que ça, alors, de nouveau, je me répète ce soir, mais travail d'éditeur incroyable, super minutieux. On a un rendu, donc c'est une impression en 6 tons direct. Et donc, on a vraiment l'impression que c'est des originaux au feutre. Ça reproduit admirablement la nervosité du feutre, l'éclat de sa couleur. On a même l'usure du feutre. Je suis complètement bluffée par la reproduction. Et donc chaque récit, parce que donc, tu l'as dit Philippe, ce sont des courts récits, et en bichromie, donc il y a un choix. Enfin, à la fin, il y a même 3 couleurs, mais voilà. On va avoir un rose fluo et un bleu, et souvent il y a une couleur qui traite plus les décors et une couleur qui traite le personnage. Et donc il y a d'abord un peu... un sentiment de confusion. Je pense qu'il faut un petit peu de temps quand même pour s'acclimater. Moi, ça m'a fait un peu le même effet que quand j'ai découvert Bertoya, puisqu'on l'a interviewé au Festival Monstre il y a quelques semaines. J'ai ouvert ses fanzines, j'ai un peu envie de les refermer tout de suite. Et puis, je les ai rouverts. Puis, j'ai commencé à lire en disant « Oula, je ne comprends pas grand-chose ». Et puis, au bout de 10-15 pages, je commençais à me dire, putain, c'est génial. Et ça m'a fait exactement la même chose avec ce bouquin-là. Et je pense qu'il faut... Il y a d'abord un sentiment de confusion, ça peut être un peu déroutant. Enfin, toi, tu connais d'autres travaux. Moi, j'ai vraiment découvert avec ce livre-là. Je trouve qu'il y a un sentiment de confusion qui laisse très vite place à un engouement. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie aussi dans ces récits-là. Et donc, on est très vite pris. Il y a un côté vitesse, dynamisme.
Il y a beaucoup de mouvements. En fait, c'est comme s'il fallait habituer ses yeux à lire du Yokohama. Et en fait, c'est la même chose dans ses autres bouquins, où on a du mal à rentrer dans les premières pages. Et puis, c'est comme si, à un moment, les yeux s'y faisaient et décelaient les personnages beaucoup plus facilement, décelaient les décors, arrivaient à les différencier. Et en fait, tout s'éclaire. Sauf qu'ici, j'ai l'impression que c'est en effet encore plus nerveux que d'habitude, et justement cette spontanéité dans les mouvements des personnages et ce jeu des couleurs rend super bien l'enthousiasme que ces deux personnages, on a l'impression, ont à... Par exemple, il y a 15 pages sur le nettoyage de leur appartement. Quand on voit ces 15 pages, on dit « Mais moi, dès que je rentre, je commence à nettoyer mon appartement. »
On a un peu l'impression que c'est... Super, quoi. Là, je parlais de Bertoia. Par contre, au niveau de l'atmosphère, ça n'a rien à voir. Ici, il y a une sorte de candeur et on a l'impression que tout est source de joie. On a juste l'impression que c'est les deux personnages les plus heureux de la Terre, quand même.
En permanence. Et donc, voilà, que ce soit, en effet, comme je le disais, aller dans un parc d'attractions, faire du camping, tout est toujours source de joie. Donc c'est assez drôle. Et donc justement, ça vient pas mal contrebalancer ces bouquins qui, au précédent, étaient sans doute un peu plus austères, un peu plus froids. On parlait d'aspect géométrique là tantôt. Alors, ce bouquin se termine par une étrange postface. Ça devient un peu plus conceptuel. On retrouve peut-être un peu plus le côté artiste contemporain. C'est une postface où c'est un souhait de l'auteur, mais qu'il n'a pas, à ma connaissance, expliqué en tout cas. Mais il décrit case par case son intention. Donc, le personnage A fait ceci, alors que le personnage B fait cela. Tout est décrit comme ça, de manière très minutieuse.
On va donner un petit exemple. L'oiseau et le poussin fuient à travers bois. 2. Il s'arrête et regarde vers le haut. 3. De dangereuses abeilles tombent dans l'air. Donc c'est très, très bizarre. On vient de se faire le livre et il y a ça après. Ouais.
Et donc c'est très étrange parce que du coup, c'est quasiment le contre-pied exact de ce qu'on vient de lire. Quelque chose de très spontané, de très fou. Et puis là, on lit ça comme ça et c'est très froid. Et je trouve que c'est... moi, je trouve cette postface super parce que quand on termine ça, moi, j'ai relu certains passages en relisant comme ça cette postface très textuelle. Et c'est comme si je le relisais différemment. Et j'ai eu un autre plaisir, mais j'ai quand même eu du plaisir. Donc c'est vraiment étrange, quoi. Ça ne fait que rajouter à l'étrangeté de ce bouquin, mais aussi à son intérêt. C'est vraiment, c'est vraiment très, très bien. Et alors, je pense que j'avais plus ou moins tout dit. Hein. Et oui.
Quelque chose à rajouter ?
Non, moi, c'était la découverte et s'il y a un aspect un peu peut-être rebutant parce que c'est un peu un ovni en termes de dessin et tout ça, il faut quand même se plonger dedans parce que on est très vite pris, ça va très vite. Je parle pour moi. Mais...
Et il faut acheter des livres de Yushi Yokohama parce qu'apparemment il a un petit atelier en banlieue de Tokyo, tout près d'un aéroport. C'est pas la fête. Voilà, donc acheter plein de bouquins pour qu'ils puissent continuer à bosser.
Et que comme Kunan Niguchi, on dise, c'est une star en Europe.
Voilà, pour qu'on puisse dire, vous savez, le japonais, mais qui ne fait pas du manga, là, qui fait... ce serait le top.
Et c'est le genre de bouquin qu'on peut avoir dans sa bibliothèque et sortir aux gars qui ont dit, « Gustave Doré, j'aime pas les vieux trucs, moi je préfère des trucs expérimentaux. » Vous dites, « Alors tiens, regarde ça. » Et là-dessus, vous leur clouez les becs. Donc ça fait partie des outils à avoir pour affronter le monde. Avant d'écouter un peu de musique dans la deuxième partie, nous allons rapidement faire une petite rubrique Grand Papier. En effet, nous sommes allés nous balader sur le site Grand Papier, qui est, comme vous le savez, bien fourni en récits de toutes sortes. Et on y a trouvé quelques petites choses dont on voudrait vous parler. Alors c'est Johanna qui va commencer avec...
Moi j'ai un très très court récit, 7 pages. C'est d'ailleurs appeler ça récit, je trouve que c'est quand même un grand mot. C'est plutôt une série de dessins. Comment on pourrait dire ? L'histoire c'est une chevauchée, voilà. Point. Une chevauchée en 7 pages, c'est Nina Kosko et ça s'appelle Si vite arrivé, c'est assez récent. Je pense que c'est une jeune auteure, c'est une auteure qui vit à Bruxelles. Et si on va sur son blog, on se rend compte qu'elle teste un peu plein de choses. Elle a un deuxième récit sur grand papier qui s'appelle La Banane, qui est en lithographie noir et blanc. Mais donc, si vite arrivé, ça a un peu rien à voir, parce que c'est en couleur. C'est des techniques mixtes. On trouve du trait au pinceau, du feutre, des textures. Et alors, c'est le côté graphique qui est frappant. Il y a un côté un peu asiatique qui irait vers le dessin un peu chinois, comme ça. Donc, c'est très séduisant. Donc, voilà, ça se lit très vite. Hein, c'est 7 pages. Elle a classé ça en dessin drôle expérimental jeunesse. Je trouve que c'est plutôt pas mal classé. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Ça, c'est un petit truc qui se regarde.
Et je suis un peu dans la même veine que Johanna finalement. J'ai choisi aussi un récit assez court, 11 pages, je te bats quand même de 4 pages. Hôtel Mirage d'Elodie Lascar, et donc c'est aussi plutôt graphiquement, plastiquement que ce récit m'a séduit. Elodie Lascar, je sais à peine qui c'est, hein, c'est, je pense plutôt une auteure française. Ça sent l'école de Lyon ou de Strasbourg, en tout cas par là, mais sans plus de détails. Et puis finalement, c'est pas essentiel pour le moment, en tout cas. Donc, récit en cours, 11 pages, inspiré, comme elle le signale, d'un film d'Hitchcock, Une femme disparaît. Donc, du coup, on s'attend quand même à un récit au long cours, je ne sais pas, mais on attend en tout cas que le récit se développe. C'est donc surtout graphiquement que ça m'a plu, notamment la couverture de ce récit avec une image de cet hôtel Mirage en question, qui pourrait faire déjà une très très belle couverture de bouquin. Et c'est ça qui m'a attiré. Alors, j'ai très vite pensé à Simon Roussin, pour plein de choses, pour l'utilisation très juste des couleurs. On a une sorte de trait au feutre de couleurs comme ça, très beau. Mais aussi ces ambiances de films noirs, forcément Hitchcock, on l'a dit, de mystères vaporeux, des choses qu'on retrouvait plutôt dans Heartbreak Valley, le dernier opus de Simon, et ces États-Unis d'Amérique fantasmée. Voilà, ça m'a fait penser à Simon Roussin, mais justement, y a autre chose. Je suis en tout cas très curieux de voir ce que ça peut donner. Et je parlais d'aspect graphique. Y a une très très belle page aussi dans ces 11 pages, lorsque l'héroïne tombe comme ça dans les vapes après avoir bu un peu trop d'alcool. Et rien que cette page-là m'a bien scotché aussi. Donc je me dis que, voilà, au-delà de la comparaison avec un autre auteur, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de suivre. En allant sur son blog, j'ai aussi vu qu'il y avait de très belles sérigraphies. Donc quelqu'un, je pense, qui est vraiment doué. Donc une auteure à suivre, en tout cas pour l'instant, plastiquement parlant. Et puis on verra comment ce récit peut se développer.
Juste dire un truc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de nous entendre parler de Radio Grand Papier, leur dire qu'ils peuvent aller sur Internet, www.grandpapier.org, et voir en direct ce dont on est en train de parler.
Oui, tout à fait. Et ils peuvent aller chercher les liens sur le site de l'émission qui est radio.grandpapier.org. Alors, quant à moi, j'ai fait une petite sélection. J'arrive jamais à prendre un seul truc, donc je vais faire vite. Alors, j'ai pris Little Man de Goma. Alors, Goma, il est sur Grand Papier depuis quelques années. C'est un gars qui n'a pas été mon étudiant. Je suis prof à l'ERG, hein, comme vous le savez. J'avais un peu vu quelques boulots. Alors, il a un dessin un peu malhabile, gras et un peu torturé, Goma. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un virtuose du dessin. On parlait tout à l'heure de la virtuosité de Doré. On n'est pas là-dedans. Mais il bosse avec une forme de sincérité assez désarmante. Et il a raconté plusieurs histoires autobiographiques dans lesquelles il parle de sexe. Et c'est toujours un côté un peu sale. Et ici, il a fait un récit qui s'appelle Little Man, qui est une série d'illustrations qui sent le dessin d'après images pornographiques dans lesquelles il vient placer plein de petits personnages humains, des petits hommes qui dégoulinent de ces femmes comme éjaculés, comme dégoulinants. Il y a un côté absolument crapuleux, mais qui est du coup pas inintéressant. Alors, Rêve éveillé de Big Ben. Alors, Big Ben, lui aussi, depuis un certain temps sur grand papier, il y a placé pas mal de vieux récits et puis des trucs plus contemporains. Et là, avec Rêve éveillé, il raconte quelque chose qui est un peu différent d'habitude. C'est toujours de l'autobiographie. C'est un autobiographe au long cours. Mais c'est un dessin un peu plus réaliste dans lequel il se montre retapant un intérieur de maison et faisant le point sur l'endroit où il est dans sa carrière de dessinateur. Ça semble être une bande dessinée un peu charnière dans sa vie. Et donc, c'est assez intéressant
vraiment à lire. Rêve éveillé donc de Big Ben. Enfin, et pour la bonne poilade, on pourra aller lire La planète des frites de Nicole, qui est un mélange de La planète des singes et d'un dessin peu à la Mathieu Sapin et un univers un peu à la Gossens. Donc, parce que vous savez que Gossens a fait des aventures de Georges et Louis qui sont sur la planète des moules ou la planète des frites, un des deux. Et donc, ça a un final assez hilarant et un dessin très rond et très sympatouillard, comme on les aime. Voilà, une très longue séquence et maintenant nous allons passer un peu de musique avant de recevoir nos invités et nous allons nous farcir, ou nous offrir plutôt, Fjulk qui va nous chanter Upfrosch. Why? Après ce morceau très dansant, nous avons pris le temps d'accueillir nos invités. Nous avons maintenant là, à nos côtés, Léonie Bischoff.
Bonsoir.
Oui, et Thomas Gilbert.
Pareil.
Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, d'après la bio, je vois que vous êtes ensemble. Merde, ben non.
Oui.
Je ne savais pas.
Merde, je me suis dit, merde, c'est peut-être le méga fou. Ils vont dire, pas du tout, on vient de se séparer, alors ça va virer au carnage. Alors, Léonie, tu es née en Suisse.
Oui.
Et après avoir fait une maturité artistique à Genève, ce truc de maturité en Suisse, c'est quand même dingue. La maturité, c'est très beau.
L'humanité, la maturité, chacun son truc en thé, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais la maturité, ça jette.
Alors qu'en France, le bac, c'est...
Ouais, le bac, tu vois. Ça fait ça. Et donc, tu t'installes à Bruxelles et tu suis les cours de la section BD à Saint-Luc. Alors, tu es diplômé en 2005. Et de là, tu publies Princesse Suplex chez Manolo Sanctis.
Ouais. Alors ça s'est pas fait si vite, mais on peut passer sur 4 ans où il ne s'est rien passé.
Il ne s'est rien passé quoi, serveuse.
Pas serveuse, mais vendeuse de produits culturels en grande surface pratiquement. Voilà.
Waouh.
Voilà.
L'école de la vie quoi.
Exactement.
Eh bien, tu as ensuite publié Oudou Darling.
Voilà. Et ça c'est ce que je considère être mon premier vrai album parce qu'il y a un vrai scénario qui m'a fait pleurer et suer pendant des mois. Donc c'est mon bébé, j'en suis fière.
Ok. Et là maintenant, un deuxième bébé est arrivé que tu aimeras parce que ton cœur est assez grand pour deux.
Absolument.
De la même manière. Et c'est Princesse de Glace qui va paraître.
Qui paraît mercredi prochain.
Ouais. Donc on est vraiment dans l'actualité chaude.
Absolument. Avec Olivier Bocquet au scénario et c'est une adaptation de Camilla Läckberg. Voilà, pour citer tout le monde.
Ok. Eh bien, tu disais que tu avais sué, donc ça veut dire que tu es en train de cracher sur Manolo Sanctis en disant que le livre que tu as fait chez eux n'est pas un vrai livre. Pourtant, Princesse Suplex, c'était un livre avec une femme catcheuse qui était d'une belle nervosité. Je me souviens qu'on en a parlé dans cette émission même. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Princesse Suplex et ce premier livre chez Casterman? Il y a eu la saut de la maturité.
Maturité, je dirais pas, mais en fait, Si je considère pas Princesse Suplex comme un vrai album, c'est que pour moi l'histoire avait pas la place de se développer en 30 pages. C'était pour moi, je l'avais construit comme une chanson, comme un truc court qui devait laisser une impression, un ensemble de sentiments et une énergie. Mais j'avais pas la place de développer réellement le personnage, une vraie intrigue. Et là, sur les 120 pages de Hoodoo Darling, j'ai pu construire plus. Voilà, un scénario qui reste, c'est de l'aventure assez classique dans sa forme, mais j'ai pu me faire plaisir avec des personnages secondaires, un peu de background sur le personnage, et voilà, pour moi c'est une histoire d'aventure plus conséquente, une vraie histoire. Et il y a la couleur.
Tu voulais dire quelque chose, Joanna?
On peut juste préciser qu'en effet, tu parlais de l'expérience Manolo Sanctis, on vous avait reçu à ce moment-là, ça remonte à 2009, mais est-ce que c'est...
Non, c'était plus récent quand même.
Ouais. 2009, c'est loin. Mais donc on avait déjà fait un bout de chemin avec vous jusque-là en fait, jusque Manolo Sanctis. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être plus s'attarder sur depuis.
Oh là là, depuis. Comme tu es.
Non. Non mais comme les auditeurs ont une très très bonne mémoire, ils vont se dire mais ils nous ont déjà dit tout ça.
Redite,
non, on peut refaire un parcours général, mais c'est vrai que nous on est assez curieux de savoir depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas si Thomas, tu veux...
Attends, on est sur toi.
Ok. Mais moi, je pense que Manolo m'a en tout cas apporté la crédibilité auprès de plus gros éditeurs. Enfin, j'avais déjà contacté Casterman avec des bribes de scénarios qui se portaient sur le sujet de Hoodoo Darling avant ça. Et j'avais eu des réponses polies, mais pas franchement enthousiastes. Et au moment où j'avais Princesse Supplex physiquement entre les mains, les éditeurs ont réagi plus positivement à mes courriers et j'ai pu entrer en contact avec eux. Donc le Hoodoo Darling, c'est pas fait tout de suite. Il y a eu une période où ils m'ont proposé des projets d'adaptation, souvent de romans jeunesse, où j'ai fait des tests avec eux, qui se passaient bien, mais mon dessin correspondait jamais vraiment à ce que l'auteur du roman cherchait, jusqu'au moment où on m'a proposé de faire cette histoire que j'avais en tête depuis longtemps. Donc voilà, il y a encore eu un an et demi à peu près entre Princesse Supplex et le début du vrai travail sur cet album-là. Mais c'était un an et demi où j'étais vraiment en contact avec des éditeurs et où je cherchais, quoi. Et ça m'a permis de travailler pas mal de sujets différents et d'arriver à plus d'aisance dans mon dessin, quoi.
Oui, Simplex avait vraiment été une remise en selle par rapport à ton boulot après avoir été spécialiste culturel de grande surface.
Voilà.
Et donc, oui, une fois que le boulot est repris, là, on voit d'ailleurs que ton dessin avance à vitesse géométrique, puisqu'il y a vraiment un gain dans l'affirmation, dans la finesse du trait, la manière dont tu peux capter non seulement des personnages, mais aussi des attitudes. Et donc, là, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Alors, Johanna disait tout à l'heure qu'elle n'était pas contente des couleurs de ce premier livre. Alors maintenant, tu vas devoir défendre cette posture.
Moi, c'est une réflexion qu'on se fait avec Philippe, que le dessin était plus séduisant que la mise en couleur.
C'est vrai que, du coup, le trait, vu que j'encre pas à l'encre, j'encre toujours au crayon, et là, il est sûrement pas mal mangé par la couleur. Il disparaît un peu. Après, bon, moi, je m'amuse beaucoup personnellement à la couleur et j'en suis assez contente sur cet album-là.
Bon, après, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu parler de ce livre précisément, le pitcher un peu. Le travail de la couleur est quand même assez important parce qu'on a des scènes de désenvoûtement avec la magie et tout ça. Et bon, on peut comprendre qu'il faut une mise en couleur un peu péchue pour parler de ce genre de truc aussi.
Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que raconte Hoodoo Darling?
Alors, en deux mots, c'est une histoire qui se passe dans le sud des États-Unis, en Louisiane, dans des années 60, un peu fantasmées. Je ne suis pas très authentique, mais en gros, c'est une jeune apprentie chamane, parce qu'il y a une forme de vaudou qu'on appelle le hoodoo qui se pratique dans le sud des États-Unis, et qui est trop impatiente et qui commet une bévue et qui se trouve chargée d'une mission pour se racheter aux yeux des esprits. Parce que son maître va bientôt mourir et qu'il faut qu'elle puisse reprendre le flambeau. Sinon, toutes ses connaissances et ce savoir ancestral sera perdu. Donc voilà, en gros, c'est une quête, aventure à travers le bayou où elle va rencontrer différents esprits et différents personnages. Voilà.
Avec un affrontement, enfin en tout cas une tension entre des esprits bienveillants et des esprits malveillants. Oui. Donc qui va l'emporter?
Je lisais une interview où tu parlais que, si j'ai bien compris, que tu parlais surtout du vaudou haïtien dans celui-ci, et qui se différenciait du vaudou plus africain.
Ouais.
Ça vient d'où cette connaissance? En lisant l'interview, je me rendais compte que tu étais assez calé. Ça vient d'où ce sujet ou cette attirance
L'attirance, elle remonte vraiment à loin, hein. Entre autres de la BD oubliée que j'ai amenée, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais de beaucoup de films ou de livres que j'ai pu lire étant vraiment petite. Tous les sujets qui touchent à la magie, aux possessions, au chamanisme, c'est des trucs qui m'ont toujours attirée. Et je pense que c'est quelque chose, graphiquement, où on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. On peut beaucoup s'amuser là-dessus, parce que ça se passe beaucoup dans la tête des personnages aussi. Donc, on peut déformer, triturer et justement jouer sur les couleurs, les flashs. Voilà, donc déjà, c'est un truc qui m'amuse. Et puis après, il y a eu quand même pas mal de documentation. Et bon, avec Thomas aussi, c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux. Donc, on a pu partager des bouquins. Il y a eu une très belle expo à Genève qui s'appelait « Le vaudou, un art de vivre » au musée d'ethnographie. Et à partir de là, ils ont tiré aussi un ensemble de textes d'anthropologues. Enfin, ouais, je me suis pas mal documentée, mais après, ça reste vraiment de l'aventure et c'est très fantasmé. Il y a rien de... Enfin, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis pas forcée à rester fidèle à ce que j'avais lu. Ouais, c'est une interprétation très, très libre.
Quand on regarde, malgré tout, quand On a des gens qui nous disent « Ah, une bonne BD sur le vaudou, il n'y en a pas tellement. »
Ouais, mais et justement... moi, je peux pas assumer ça comme ça, parce ouais. que déjà, c'est pas du vaudou, c'est la version américaine où il y a encore d'autres influences. Déjà, il y a bon, les influences africaines, les influences chrétiennes, mais des influences des natives américaines du sud des États-Unis, plus les protestants blancs qui étaient là aussi. Enfin, c'est encore plus un mélange, et c'est vraiment une pratique... qui doit changer aussi d'un sorcier, entre guillemets, à l'autre. Donc, c'est quand même pas la même chose que le voodoo. Et pour moi, c'est pas une BD là-dessus. C'est juste un thème qui me sert de prétexte.
Quoi. Mais elle est pourtant beaucoup moins clichée que ouais, toute une série sur cool. le voodoo
Merci.
Que j'ai lu dans des séries plus classiques des années 80-90
ouais.
et qui sont vraiment très, très clichées. Quoi.
Ouais, donc, ouais. J'ai voilà, essayé, oui, de rendre ça un peu plus personnel, ouais, un peu plus même, intéressant.
Voilà, il
ouais.
y a quand même beaucoup plus de choses qui passent.
Bah, merci.
Donc, voilà.
Bien, on va passer à Thomas. Alors Thomas, tu es né en 83 à Angers.
Ouais, c'est ça.
Tu as suivi l'école supérieure des arts de Saint-Luc, Bruxelles, donc ouais. la même école. Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés ou alors vous avez été joué timide pendant toutes vos études?
Non, on s'est rencontrés là, exact.
Stéphane aime bien les détails.
J'adore les histoires d'amour.
Première année, tac, ça a tout de suite collé.
Ouais. C'était les amours secrètes, on se cachait, on n'arrivait pas à l'école en même temps, tout ça.
Ouais. Ah ouais, je m'en souviens plus.
Regarde-le comme une nid, quoi. Alors, tu t'inscris sur le site de Manolo Sanctis en 2009. Donc, c'est pour les gens qui ne se souviennent pas, c'est un site qui est un des premiers essais de financement collectif. Donc, on pouvait déposer des planches, des personnes pouvaient interagir, voter. Et à un moment donné, s'il y avait un engouement suffisant, le bouquin pouvait naître.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ils étaient franchement partis tambour battant. C'est la boîte qui paye les auteurs, qui fait émerger les nouveaux talents et tout ça.
Mais ils avaient une bonne vision. Sur le numérique, ils avaient, mine de rien, mis en place une bonne structure. La liseuse était intéressante.
Mm-hmm.
Quoi.
Mm-hmm. Tout à fait.
Franchement, pour ça, c'est clair.
Oui. Et voilà, alors que tu es encore aux études, tu proposes les premières planches de Oklahoma Boy.
C'est ça.
Et qui rencontrent un certain succès. On peut dire ça sans flagronner.
Bah, si ça avait vraiment rencontré un vrai succès, je pense que Manolo serait encore vivant, mais, mais voilà.
Tu ne peux pas porter une maison d'édition à toi tout seul, non. Allez.
Et
d'autres le font.
D'autres le font, oui.
C'est ça. On ne citera pas de nom. Comme ça.
Alors, c'est publié en octobre, le numéro 1 de Oklahoma Boy est publié en 2009. Un an plus tard, sort le tome 2.
Ouais.
Et puis ensuite, la boîte coule.
Ouais.
Donc, entre-temps, voilà, tu as continué à bosser et, parce que c'était en fait une trilogie, mais dont le troisième numéro, ne peut pas voir le jour.
C'est ça, oui. Ouais. Tout ça, c'est bien réel.
Tout ça est bien réel. Et voilà, comme tu travailles par ailleurs sur un autre projet avec Loïc Locatelli-Kournski.
Oui.
Sur un projet chez Vidcocagne qui s'appelait Mastadar Manipulation.
C'est ça.
Eh bien,
vous êtes bien au courant, là.
Eh bien, du coup, dans la foulée, tu proposes Oklahoma Boy à Vidcocagne et ils disent, bon sang, mais c'est bien sûr, on va republier toute la trilogie.
Voilà, disons que c'était ce qu'il fallait faire. Je me suis retrouvé avec un troisième tome fini. Donc l'album était fini, les planches étaient finies, mais comme Manolo avait mis clé sous la porte, il fallait faire quelque chose, au moins pour les lecteurs. Et voilà, j'ai un peu démarché les éditeurs, et Vidcocagne s'est dit, on y va, on fait une intégrale des trois tomes, et on fait un bel album, un bel objet, avec cette histoire, parce qu'ils croyaient au projet, et je crois que ça correspondait à la vision qu'ils avaient de la narration et de l'histoire. Quoi.
Ok. D'un point de vue purement technique, je suppose que nos éditeurs, parce qu'on a pas mal de dessinateurs qui écoutent Radio Grand Papier, comment ça s'est passé le rachat des droits?
Alors en fait, vu que Manos Sanctis avait coulé, en fait, les droits deviennent libres.
Ah oui.
Et du coup, ils me revenaient en fait.
Ok, donc ils te revenaient ou ils étaient libres? C'est-à-dire que n'importe qui.
Ils me revenaient.
Ouf.
Ils me revenaient quand même. ouais, non, ils n'étaient pas libres. Ouais, allez-y, j'ai tout mis en PDF.
J'ai vu des t-shirts avec.
c'est ça. Si seulement, ça voudrait dire qu'au moins ça marchait, quoi.
Ok, peut-être parlons un peu de Oklahoma Boy. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que raconte ce truc de Oklahoma Boy? C'est un enfant qui vit en Oklahoma?
Alors en fait, c'est. ben oui, effectivement, il vit en Oklahoma, mais Oklahoma, c'est le prénom du héros et Boy, c'est son nom de famille. Et savoir pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Et en gros, l'intégrale, c'est trois moments clés de la vie du même personnage, donc Oklahoma Boy en question. Et ça me permet, en fait, chaque chapitre, vu que c'était trois tomes, J'en ai fait 3 chapitres. Chaque chapitre permet de parler de thèmes qui m'interpellent ou voilà, qui m'amusent aussi. Mmh.
Alors, le premier tome était autour de, plutôt de l'enfance de ce personnage, très très brutal, avec un père méga autoritaire. Ouais. Le deuxième traitait plutôt...
La religion.
Le rigorisme religieux extrêmement présent. Alors, le deuxième parlait plutôt, lui, de la guerre.
Et du rapport nationaliste à la nation, en fait. Ouais. Quel est le rôle d'un homme dans une nation et dans le patriotisme. Puis bon, je parlais aussi du triomphe un peu de l'Amérique face à l'Europe qui est en train de décliner un peu la vieille Europe. Quoi.
Tout ça se passe plutôt aux alentours du début du XXe siècle.
C'est ça, mais c'est toujours un peu romancé. Quoi. C'est pas un 14-18, c'est pas du Tardi où on reconnaît les vareuses. Voilà, j'avais envie d'un peu donner autre chose. Quoi, aussi.
Et il est encore un peu... Il y a toujours la question de la foi qui l'embarrasse un peu plus.
Voilà, c'est aussi que fait-il de la foi dans les charniers de la Grande Guerre, quoi. Est-ce que c'est compatible avec le fait de couper des bonhommes, quoi.
Et ce troisième tome, alors du coup, de quoi parle-t-il?
Alors pour le troisième tome, c'était un peu en gros, je parle de la modernité, quoi. Il y a l'argent et la modernité d'un côté, donc les buildings qui fleurissent. Puis il y a les autres, il y a ceux qui sont... En fait, c'est après la crise de 29, donc il y a ceux qui s'en sortent, et puis il y a tous ceux qui sont laissés sur le carreau, dans un New York un peu labyrinthique.
Mais avec... parce qu'on parlait de vaudou, j'ai l'impression, et ce sera la question un peu plus tard, mais qui avait ce thème plus dans le bouquin de Léonie. Et chez toi, il y a cet autre thème finalement assez fort, même si... On passe dans la modernité, on passe un peu du 19e au 20e. Ouais. C'est toujours aussi cruel, c'est toujours aussi violent, et c'est toujours aussi barbare, sauf que ça prend un autre visage, quoi. J'avais l'impression, au lieu d'en effet de trucider des gens dans des tranchées ou de trucider des gens au nom de la religion, ce genre de choses, ça se fait toujours, mais en costume cravate, quoi.
Et peut-être aussi, enfin, il y a toute une question aussi d'être un... Parce que voilà, le Oklahoma Boy finit clochard à New York, et il y a ce non-regard des autres. Donc il y a la modernité, il y a les gens qui circulent, puis il y a les autres, ceux qui sont un peu immobiles dans la rue et qu'on ne regarde pas, en fait, parce que c'est ceux qu'on ne veut pas voir, quoi. Et bon, c'est un peu... Enfin, voilà, quand on lit Céline dans Voyage au bout de la nuit, quand il arrive à New York, t'as ce truc-là des immeubles qui surgissent, et à côté de ça, t'as... les espèces de toilettes communes hyper... où c'est juste une fosse et il y a 50 culs en train de tous chier dans la même fosse, quoi. Et donc c'était un espèce de rapport comme ça entre hyper-modernité et puis barbarie ordinaire, quoi.
Du coup, en les relisant là pour l'émission, je me demandais, parce que vous êtes... je sais pas si vous êtes jeune, véritablement jeune, mais en tout cas, on va dire vous êtes... assez jeunes dans le métier.
Ils sont très 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 jeunes.
Ils sont très 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 jeunes. J'avais pas envie d'entendre ce genre de choses parce que moi je suis très très vieux. Mais est-ce que maintenant je dirais que ça c'est une première partie, j'ai l'impression dans la carrière, où j'ai tellement l'impression que maintenant vous allez attaquer d'autres choses dont on va parler un peu plus tard. Est-ce que ces thèmes-là, vous les aviez déjà en commençant ces bandes dessinées-là, ou c'est quelque chose qui est venu progressivement? Et surtout, est-ce qu'il y a comme ça d'autres thèmes auxquels vous avez envie de vous attaquer? Est-ce qu'il y a des choses comme ça
C'est trop large, cette question.
Qui vous poussent? Ok. Alors, est-ce que vous dessinez avec des crayons ou avec des magiques? Non, c'est peut-être trop large, je ne sais pas.
Non, c'est segmentons, t'as posé. Il y a 3 questions en une. Donc, tu disais d'abord, est-ce que on parlait des thématiques? Est-ce que par rapport à Oklahoma Boy, par rapport... Là, on avait l'impression que le voodoo, c'était un vieux truc qui traîne dans ta tête, etc.
Ah ouais, pour moi, ça fait longtemps. Et je pense que j'y reviendrai sous une forme ou une autre à un moment.
Donc, visiblement, t'as négocié à casser main, parce que tu parlais, t'avais proposé quelque chose, ça a été refusé, puis à un moment donné, on te propose d'autres trucs, ça marche pas, et puis finalement, est-ce que c'est toi qui as fini par dire, tiens, il y a ce truc-là dans le tiroir, on pourrait le faire?
Plus ou moins, disons qu'il était passé du coup dans le tiroir d'un des éditeurs de Casterman aussi, et que lui est revenu à la charge. Enfin, j'avais refait des planches, j'avais redessiné des planches en ayant changé, enfin mon dessin avait évolué évidemment, et en voyant ça, il a dit ok, mais le scénario était encore pas très abouti pour moi, mais comme c'est un éditeur qui s'attache beaucoup au graphisme et qui laisse ses auteurs assez libres sur le scénar, ça m'a arrangé dans un premier temps, puis après je me suis maudite moi-même parce que j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais enfin, juste pour dire que ce thème du vaudou ou du chamanisme en général, c'est un truc qui est inépuisable, quoi. Et dans quelques années, quand mon dessin aura évolué et que ma manière de voir les choses aura évolué, je pense que j'aimerais refaire un album sur un thème qui touche à ça. Mais ce sera sûrement très loin de celui-ci, mais c'est un thème pour moi qui est inépuisable, quoi. Mmh.
Et toi, donc ici, tu parlais de différentes thématiques par rapport aux albums, avec une toile de fond qui est quelque chose par rapport à la foi, et aussi avec la foi, l'espérance, etc., et donc dans lesquelles tu sens plutôt, c'est plutôt dur. Est-ce qu'il y a une relation d'abord entre le vaudou, tu disais que vous en parliez beaucoup, que ça vous intéressait tous les deux, mais en même temps, le mot vaudou, il n'est pas très présent dans Oklahoma.
Non, mais il y a... Enfin non, je vais te laisser répondre.
Non, vas-y. Enfin, Allez, c'est marrant, on en discutait. On est dans un atelier, on est quand même hyper imprégné de mythologie, en fait. C'est que ce soit vaudou haïtien ou... Alors, moi, voilà, je suis athée, et pourtant, voilà, la religion m'intéresse, quoi. C'est un truc, je me dis, c'est assez inépuisable, c'est passionnant, parce que ça porte les gens. D'un autre côté, il y a la mythologie grecque aussi, enfin, voilà, qui m'intéresse. Enfin, la mythologie, c'est quelque chose qui, pour moi, porte vraiment le récit, quoi.
Parce que dans Oklahoma Boy, il y a cette espèce de personnage minotaure qui vient, qui le hante. Il est, lui aussi, il est habité, il est poursuivi et par ses souvenirs et par, enfin voilà. Et puis cette partie de lui qui prend cette forme de minotaure,
espèce de culpabilité, super dans menaçant. La ville, ouais. Enfin oui, parce que, enfin j'ai l'impression que on est encore, pour moi, on est encore là-dedans, quoi. Que les gens se raccrochent à soit des mythes, des croyances ou... Et ça me fout les boules, quoi, mais les gens sont encore là-dedans, quoi.
Et pourquoi tu dis encore? Parce qu'on n'a pas l'impression, on a l'impression que l'athéisme était une parenthèse du XXe siècle, de la même manière que les Trente Glorieuses étaient une période d'abondance, mais que dans le fond, ce n'est jamais qu'une parenthèse.
Voilà, c'était, dans le fond, il y avait encore ce tapis religieux qui était sous-jacent, quoi, ouais, c'est ça.
Et puis, je crois que, ouais, quand on dessine, tout ce qui touche, que ce soit mythologie ou les religions ou n'importe quelle croyance, ça permet bêtement de personnifier des idées ou des concepts et du coup de faire apparaître un personnage ou une créature, de le faire apparaître visuellement. Et donc ça aide à raconter des histoires. Quand on bosse avec le dessin, voilà, de faire apparaître un personnage au lieu de devoir mettre des voix off dans la tête du personnage, c'est quand même beaucoup plus joyeux.
Ou puissant plutôt que joyeux. Ok, peut-être qu'on pourrait justement par rapport à ça, tu pourrais nous présenter ta bande dessinée oubliée.
Alors, c'est une bande dessinée qui s'appelle Eva Medusa, de la dessinatrice Anna Miralles et du scénariste Antonio Segura. Donc c'est sorti en 91, donc moi j'avais juste 10 ans et mes parents l'ont reçu assez vite. Et il y a quelques scènes assez explicites qui faisaient que je n'avais pas le droit de la lire. Donc en plus, il y avait une aura d'interdit comme ça. Et c'est une histoire qui parle vraiment de la version brésilienne du coup, du vaudou. Juste là, j'ai un blanc sur le nom.
Candomblé,
merci. Et voilà, ça parle d'une très jeune fille dont la mère a disparu dans des circonstances un peu mystérieuses, qui a grandi dans un pensionnat et qui retourne dans le domaine de son père. Et qui va être confrontée aux croyances païennes des domestiques, parce qu'elle a été élevée de manière très catholique. Et les domestiques là-bas pratiquent la magie, qu'elle soit blanche ou noire. Et voilà, donc elle se retrouve plongée dans cet univers, en même temps qu'elle éprouve ses premiers émois amoureux.
C'est ça qui est surtout important dans cette BD.
Oui, c'est quand même...
Il y a des nichons.
Il y a des pages très...
La couverture
est
assez explicite.
Il n'y a pas que des nichons. Les hommes sont aussi dessinés de manière assez explicite, ce qui est rare quand même.
Ce qui vient de
sortir. Parce que des nichons en BD, on en voit. Donc voilà, c'est une bande dessinée. Les thèmes m'ont beaucoup marqué. Les couleurs sont assez tranchées. Je pense que ça a été une influence aussi. Et le dessin, même s'il a un peu vieilli, je le trouve encore assez gracieux, en fait. Et c'est une BD que j'ai relue régulièrement avec un regard plus ou moins critique suivant les périodes. Elle est en 3 tomes. Les 2 autres m'ont toujours beaucoup moins touchée. Le premier reste pour moi quelque chose qui vaut la peine d'être lu, même si ça a vieilli.
Et donc, Eva Medusa chez Glénat nous est recommandée par
toi, le venin.
Ouais. Léonie Bischoff nous recommande Eva Medusa, sachez-le. Ok, et quoi, donc tu l'as lu la première fois, tu avais 10, 11 ans donc.
Oui, quelque chose comme ça, mais je ne la lisais pas en entier, je feuilletais pour regarder les scènes. Voilà.
Scènes explicites.
Voilà.
Et faire ça tout de suite.
Magnifique. Eh bien, on pourrait embrayer directement avec ton morceau de musique choisi. Quel alors, est-il ?
Pour le coup, c'est une autre ambiance, c'est pas très brésilien. Le groupe s'appelle Future Islands, c'est sur l'album In Evening Air, et c'est un groupe qui tourne en ce moment, qui est assez particulier et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Que tu écoutes en travaillant ?
Que j'écoute parfois en travaillant, mais que j'écoute plus en marchant ou peut-être en dansant. Ouais. Ça a une certaine énergie.
Eh bien, écoutons ça. Alors, voilà, on revient sur Oklahoma Boy. La justice est faite à ce livre. Donc maintenant, tu peux mourir voilà. Un peu de ce côté.
Oui, non, c'est bon, là, c'est bon. Vous pouvez me tuer en bas du LB, là, c'est bon.
C'est bon, donc les Albanais nous attendent en bas. Et tu es content, finalement, le résultat, le bouquin, le façonnage, il y a un côté un peu luxueux. Donc, Vid Cocagne a bien fait son travail.
Ah oui, mais ça, c'était quand même pas la grosse surprise, parce que je leur faisais confiance. Mais ils ont dit, voilà, on met le paquet sur l'édition. Et voilà, c'est, le résultat est là, quoi. Je suis content des couleurs.
Je ne connais pas beaucoup de bouquins de Vid Cocagne qui soient... De cette facture-là, enfin, je veux dire.
Ils ont dit sur ce bouquin, c'est ça, c'est une espèce de rapport humain. Ils ont dit sur celui-là, on met le paquet, on y croit, on aime le projet, on le soutient et on y va sur l'édition, quoi.
Je pense qu'on n'a jamais parlé de Vid Cocagne à la radio. Est-ce que y a moyen de dire trois mots dessus
Alors, en fait, Vid Cocagne, c'est une édition, une association en fait nantaise qui fonde la. Est-ce que micro-édition, je ne sais pas si ça se dit, mais en même temps, ça fait un peu négatif comme ça, je ne sais pas.
Mais non.
Et en fait, ils sont lancés vraiment au départ dans le fanzina, c'est vraiment des copains qui ont lancé les fanzines, et au fur et à mesure, ils ont grandi, et ils veulent faire des livres, indépendants, faire ce qu'ils ont envie de faire, tout en ayant quand même un côté narratif. Quoi. Ils sont vachement attachés à l'histoire, tous autant qu'ils sont, Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Enfin, pour moi, qui suis vraiment encore dans la narration, je trouve ça intéressant de discuter avec eux, quoi, et de parler bouquins et tous leurs bouquins qui sortent. Alors, ils ont fait aussi ils croient vachement au fanzina, donc ils ont fait tous les mois, en gros, il y a un fanzine qui sort chez eux. Mm-hmm. Voilà, c'est donc avec un auteur, ils donnent une carte blanche à un auteur et il peut faire un petit fanzine qui est tiré à genre 500 exemplaires. Et à côté de ça, ils commencent un peu à. Ils testent des choses, quoi.
Oui, parce qu'ils grandissent. Mm-hmm. Alimentation Générale, c'est chez eux aussi ?
Alors, c'était chez eux, mais là, je crois qu'ils arrêtent parce qu'au final, Alimentation Générale, c'était beaucoup d'énergie. Puis au final, le retour n'était pas
C'était une
super.
Revue, quoi.
Voilà, une revue, donc c'était compliqué.
Pas mal d'auteurs. Et alors, il y a un bouquin aussi qui est sorti l'année passée, dont j'ai oublié le nom, mais qui parlait de la pénibilité du travail dans le service public.
Alors ça, c'est les désobéisseurs du service public. Et c'est une BD, en fait, c'est... une rencontre d'un auteur et d'un désobéisseur du service public en France. Donc, c'est des gens, soit de l'EDF, des forêts, des psys en hôpital psychiatrique qui décident, à un moment donné, de désobéir à leur hiérarchie parce qu'on leur demande, alors, soit un prof qui doit ficher ses élèves, soit, en gros, quelqu'un, je ne sais plus comment on dit, des forêts, donc une espèce de garde-chasse qui doit couper plus d'arbres parce qu'en fait, les arbres servent... bref, c'est... C'est une rencontre, un auteur et une personne du service public qui désobéit, quoi. Mmh. Et c'est assez négatif. Pour moi, quand tu lis, t'as un peu le coup de blues, parce que même s'il y a un peu d'espoir, tu dis, merde, ouais. L'avenir n'est pas rose, mais bon, c'est des belles énergies, quoi.
Okay. Et toi, comment tu es rentré en contact avec eux ?
En fait, ça a commencé à un quai des Bulles où, en gros, leur stand était tout sympa, ils avaient monté une espèce de roulotte, enfin... Ils sont vachement en plus dans le manuel, donc c'est assez rigolo. Et j'étais allé les voir, et Loïc, donc Locatelli, était aussi allé les voir en même temps, et ils nous ont proposé de faire un bouquin à deux, donc qui est le Mastadar Manipulation. Et enfin voilà, ils nous ont dit, ça serait bien que vous bossiez ensemble chez nous. On a fait, ouais, ok, on fait ça, et c'est comme ça qu'on les a rencontrés, et que ce soit Fabien Grollo ou Émile Chifolo, enfin toute l'équipe, voilà, c'est des gens hyper engagés, hyper, hyper intéressants, quoi.
Et pour revenir à Oklahoma Boy, tu disais tout à l'heure que c'était Tu étais orienté sur le récit, mais c'est un récit dans lequel il y a des ambiances très très contrastées. On a des moments de guerre, on a des moments oniriques, etc. Et donc le dessin n'est quand même pas en reste. Tu as un dessin assez nerveux, avec un trait relativement fin, mais en même temps compassé par moments par des traits assez rudes. Tout ça est très enlevé au niveau de la mise en page. Donc on change de plan, etc. Donc on n'est pas dans du Lewis Trondheim à l'époque où il photocopiait la même case 15 fois juste pour travailler sur l'aspect narratif. Ton dessin, d'où est-ce que tu tires des influences par rapport à ce dessin? Parce qu'il est à la fois, on sent des choses, on sent confusément des influences, mais en même temps, son côté un peu malingre est assez particulier. D'où est-ce que ça vient, ce dessin?
Alors là, quand je vois mes référents, je dirais, d'adolescence, ça serait du Andreas, du Sfar, mais après, ça évolue aussi. Donc, entre, par exemple, le premier chapitre, qui était le premier tome, et le dernier, le premier chapitre, c'était une espèce de tout, c'était un peu monté comme ça, la va-vite, avec une énergie assez féroce, et le troisième tome est peut-être plus sage dans sa construction, parce que bon... Enfin ouais, j'ai du mal à vraiment définir...
Ça c'est le luxe de ce bouquin-là aussi, j'ai ressenti ça, c'est qu'on sent l'évolution au niveau du dessin, mais même au niveau de la construction du récit. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de suivre ça aussi, quoi. On a presque l'impression qu'on voit Thomas Gilbert comme ça grandir, ou en tout cas évoluer au sein du bouquin, et pour ça, la période temporelle qu'il a fallu pour aboutir à ce bouquin est assez intéressante.
Mais en fait, je pense que c'est un concept... Voilà, à côté, j'avais fait une série chez Casterman Jeunesse qui s'appelle Björn le Morphyr. Et d'un côté, quand je vois le premier tome et le dernier tome, il y a une évolution qui est évidente. Comment le premier peut être maladroit et le dernier moins. Et en même temps, ça m'intéresse. J'aime bien... Et même, j'ai toujours aimé voir les périodes où, quand on voyait les vieux Franquins, alors c'était pas forcément bien, au dernier Franquin. Enfin, quand on voit comment Spirou et Fantasio évoluent, moi, quand j'étais gosse, ça me faisait marrer. Un Astérix, le premier Astérix et les périodes Astérix chez les Belges, voilà.
Ouais, ou les premiers Blueberry et les derniers
Blueberry. Voilà, c'est pareil, quoi.
Le traitement de la sueur n'est pas du tout le même.
Bouquin de Porcellino aussi, comme ça, ou dans le même bouquin, comme ils ont été écrits sur plusieurs années, on voit vraiment le trait qui évolue. Et c'est assez,
ça, je trouve ça assez chouette. Enfin, en tant que lecteur, c'était un truc qui me passionnait à fond, quoi. Ah, l'évolution d'un auteur, quoi.
C'est clair que, enfin, sans jouer au jeu des points communs et des différences entre vous deux, il y a deux choses qui m'ont frappé dans vos travaux et qu'on retrouve chez les deux. C'est qu'il y a manifestement un amour du dessin. Ça se voit que vous aimez ça. Et du coup, ça aussi, ça mène du plaisir au lecteur, parce qu'il y a un dessin vraiment de qualité. Et alors aussi, quelque chose qui m'a frappé et dans Oudou Darlene et puis dans Oklahoma Boy, c'est que ce sont des récits denses. Ça va vite et c'est dense. Et ça m'a frappé, parce qu'on lit des trucs plus, je sais pas, cool, mais plus...
Dilué.
Ouais, plus dilué. Mais là, comme tu l'as dit toi-même, c'est des aventures. Il y a de la densité, quoi. Ça m'a frappé.
Je crois que j'aimerais bien arriver plus tard à faire quelque chose d'un peu plus contemplatif par moment, parce que c'est quelque chose que j'ai du plaisir à lire, mais pour le moment j'ai trop peur que mes lecteurs s'ennuient. Donc je crois que j'essaie de faire avancer les choses pour qu'on n'ait pas envie de poser le bouquin.
On n'a pas envie de le poser au bout d'un moment. Ça commence par une nana qui conduit à toute berzingue avec un poignard planté dans le cœur, donc c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter aux premières pages.
C'est fort. Non, je ne sais pas, j'ai peut-être pas suffisamment confiance. Puis je crois que pour le moment aussi, je veux en dire trop. Sur Oudou, par exemple, j'ai dû enlever la moitié des personnages que j'avais dans les premiers jets du storyboard. J'ai eu envie de mettre trop de trucs à la fois pour le moment. Et j'essaie d'épurer petit à petit.
Hein.
Ah non, je le prends bien.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta technique? J'avais lu une technique sans ancrage.
Ouais, c'est-à-dire que je suis vraiment pas à l'aise avec la plume et l'encre. Par contre, j'ai une étape que dans ma tête, j'appelle ancrage quand même. C'est-à-dire que je fais un crayonné sur du papier machine et qu'ensuite, je travaille à la table lumineuse sur un papier plus épais et avec des crayons, différents crayons plus gras. Et donc, c'est quand même une étape qui ressemble à celle de l'ancrage, c'est-à-dire qu'on peaufine et on donne le rendu final à partir du crayonné. Mais du coup, je le fais sur une page à part parce que je pourrais pas gommer le crayonné dessous.
Ouais, elle décale, quoi.
Ouais, je décalque.
Le Crécy fonctionnait avec des systèmes comme ça. C'est-à-dire qu'il avait, dans certaines époques, je pense à Monsieur Fruit, des boulots comme ça, il dessine au crayon et puis il scannait et forçait le contraste.
Ouais, voilà.
Le scan.
C'est un truc super agréable de pouvoir jouer une fois scanné sur les contrastes. Et y a un velouté, du coup, dans le, surtout quand on travaille sur un papier un petit peu grainé. Le scan, je fais les balances vraiment case par case pour pouvoir jouer sur, des fois laisser un peu de grain en arrière-plan. Des fois, je vais même juste gommer le grain, mais ne pas l'effacer aux balances. Enfin, ça donne une profondeur que j'arrive pas pour le moment à trouver à l'encre. Puis le plaisir de la matière du papier, du crayon sur le papier. Pour moi, la plume m'apporte pas ça. Ça, voilà.
Ok, Léonie, parlons un peu de la Princesse des Glaces. Donc là, tu as mis ton dessin au service d'un scénariste, ce qui est quand même assez différent, parce que tes deux premiers bouquins étaient, tu étais aux manettes des deux côtés.
Oui, c'est très différent.
Et donc oui, j'imagine que c'est très différent, donc, parce que tu parlais de la densité, du fait que tu as envie de remplir les pages. Là, tu étais un peu quand même lié à un scénariste. Comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé, parce que je me suis très très bien entendue avec Olivier Bocquet, ce qui est un coup de bol, parce que c'est... Pour le coup, c'est vraiment un travail de commande. C'est Casterman qui nous a mis en contact en nous proposant d'adapter ce roman-là précisément. Et on pouvait s'entendre, on pouvait ne pas s'entendre. Et heureusement, ça se passe très bien, on rigole bien. Et du coup, pour moi, il y a un côté hyper agréable et où je me sens plus détendue, même si les enjeux sont un peu plus importants, on va dire. Mais... Olivier fait un découpage qui est déjà très, très précis et souvent très futé. Je fais des fois des suggestions, j'ai parfois d'autres idées de mise en scène, mais en général, il a vraiment des bonnes idées sur justement comment réduire 350 pages de roman en 120 pages de BD. Et après, moi, j'ai plus qu'à me faire plaisir à dessiner, en fait. Donc,
que raconte la Princesse des Glaces ?
Alors, c'est l'histoire d'une femme qui a environ 35 ans, qui est écrivain de biographie et qui rentre dans son village natal. C'est un petit village de pêche en Suède, un village ravissant. Et elle découvre par hasard le cadavre de sa meilleure amie d'enfance. Donc, c'est une personne à qui elle n'avait pas parlé depuis 20 ans. Et elle la trouve morte dans sa baignoire. Tout le monde pense à un suicide, mais elle sent qu'il y a quelque chose. Et donc, elle va mener son enquête parce que c'est une curieuse. Et déterrer un peu des secrets de famille dans ce petit cadre assez bourgeois, assez campagnard. Voilà.
Okay. Ton dessin, tu parlais, j'ai déjà vu des dessins qui ont été faits par un scénariste et un dessinateur, et dans lesquels le dessinateur se contente de suivre un peu, on sent qu'il est un peu issu des instructions ici. Tu restes assez fort investi. De nouveau, on parlait de sautes qualitatives dans le dessin entre Oudou Darlin et ici, on sent qu'il y a eu une finesse encore qui s'est faite au niveau du trait, des attitudes et des cadrages, surtout, je trouve, dans celui-ci.
Les cadrages, il y a quand même beaucoup qui vient d'Olivier, il a des suggestions. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille de manière très visuelle, je pense. Il pense beaucoup, déjà il pense en double page, il pense beaucoup au mouvement, on va dire, de caméra, entre guillemets. Il fait beaucoup de suggestions qui sont intéressantes et je pense que moi ça me stimule justement à ne pas être paresseuse, à ne pas aller sur les automatismes et à analyser ce qu'il me dit et pas juste prendre... Enfin, je fais toujours attention aux indications qu'il me donne, à bien réfléchir si... Je pense vraiment que c'est la meilleure manière. Disons que ça donne une base et je peux me permettre d'être critique après sur la base qu'il me donne. Et c'est plus facile que quand on pond le truc tout seul, quoi.
Dans ce cas-ci, c'est une collaboration vertueuse.
Ouais, pour le moment en tout cas, j'espère. Là, on est parti pour deux autres tomes. Et j'espère que ça va continuer à se passer comme ça parce que c'est vraiment, vraiment enrichissant pour moi.
Alors, il y a, comme on l'avait vu dans ta BD oubliée de Eva Medusa, il y a un peu de fesses.
Un petit peu, un petit peu.
Et est-ce que tu as plaisir à dessiner des cornues? Ou alors, il y a un sujet de prédilection, plutôt les bateaux, par exemple?
Non, je choisirais toujours une paire de fesses à une carlingue de bateau ou de voiture. Ça, il n'y a pas de doute.
Peut-être que ce sera une erreur dans ton choix de carrière, mais réfléchis-y bien,
il faut des avions.
Des avions. Les motos.
De Crécy préfère les paquebots, par exemple.
Oui, c'est possible. Ouais.
Et les croix gammées. Donc c'est une trilogie c'est,
Non, en fait, l'auteur suédoise a écrit pour le moment 8 romans, dont je crois 6 ou 7 sont traduits en français. Et nous, pour le moment, avec Olivier, on s'est engagé sur les 3 premiers tomes.
Donc ça, c'est une histoire complète.
Voilà, mais on retrouvera l'héroïne et son ami. Voilà, il y a 2 personnages, en tout cas, plus quelques persos secondaires qu'on va retrouver de tome en tome. Mais ensuite, les histoires sont des histoires complètes dans chaque tome.
Peut-être voilà. On revient sur toi, Thomas, parce que du coup, on connaît plus ou moins ton avenir. tu vas être occupé pour les mois qui viennent. Oui. Thomas, j'étais voir sur ton blog, et alors, il y a plein de projets en cours, il va falloir que tu nous,
nous
débriefes ça un petit peu.
C'est en train de décanter, là, donc ça va. Du coup, là, je suis sur plusieurs albums en même temps. Donc, il y a une commande qui est l'adaptation de l'Odyssée en BD jeunesse. Donc ça, c'est assez chouette. C'est avec le scénariste Roger Setter. Et du coup, c'est vraiment... Il y a plein de beaux bonhommes en petites jupettes. Avec des belles, je leur fais des belles coupes de cheveux. Et voilà, et ils sont tous très amoureux ou très énervés. Et c'est très cool à faire. À côté de, donc ça, c'est avec Gallimard Jeunesse. À côté de ça...
Ça sort quand ? Enfin,
alors, je dois finir pour mars. Donc, je sais pas trop. Peut-être juin, je sais pas trop. Bon, j'essaie de les contacter, mais là, il y a un petit problème de discussion.
Très bien.
À côté de ça, en gros, il y a la suite de Björn. En fait, Björn Le Morfyr, qui était chez Casterman, a été récupéré par Rue de Sèvres, donc la version BD de l'École des loisirs. Donc, ils l'ont ramené dans leur giron, et du coup, on fait la suite avec Thomas Lavacherie au scénario. Donc, super, ça roule tout seul. C'est un truc très fun. Et du coup, à côté, il y a un projet vraiment perso que je traîne depuis 2 ans, qui a failli être chez Casterman, puis il y a eu des problèmes, tout ça, là, avec les changements de direction, c'était compliqué. Du coup, je l'ai proposé à Sarbacane, et on s'est hyper bien entendu. Et donc c'est une histoire d'adolescence et d'amitié adolescente. Et là, c'est un projet perso, je fais tout, et voilà, l'adolescence, je trouve ça chouette, donc ça me passionne. Ça me passionne les ados. Et du coup...
Sarbacane se spécialise dans les histoires d'ados, alors c'est ça.
Ben ouais, en fait, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça.
Quoi. Un grand message à tous les ados qui nous écoutent.
Vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'il faut faire quand les parents vous embêtent.
Ah ouais, tu veux délivrer carrément des messages pour les adolescents.
Ah ouais, non mais faut ça. Parce qu'aujourd'hui ils sont un peu paumés, quoi. Faut juste un gros flingue, quoi.
Waouh. Et ça va sortir quand?
Orso, je pense début de l'année prochaine.
Et puis, tu as un autre projet, une autre collaboration, non?
Ah bon?
Je sais pas, hein, c'est ou alors tu t'es fait pirater ton blog.
Avec Thomas Lavacherie?
Tout à fait, voilà.
Ouais, alors ça, c'est pour dans longtemps, ça, c'est un projet, en fait, on va partir de l'histoire du grand-père de Thomas Lavacherie, qui était le premier Belge à ramener à Moai de l'île de Pâques dans les années 30. Donc, il a été avec Alfred Métro.
Il y a un documentaire qui était fait sur le sujet.
Que Thomas a réalisé. L'île de Pâques, ouais. C'est ça, et c'est Thomas qui l'a réalisé. Et bah avec Denis d'ailleurs, je sais pas. Ouais. Et donc en fait, ils sont allés à l'île de Pâques et Thomas, voilà, veut en gros raconter un peu comme il connaît bien le sujet. On va faire un espèce de polar qui se passe dans les années 30 là-bas, mais bon, c'est pas pour tout de suite.
Alors du coup, question pratique, va peut-être intéresser que les auteurs, mais tu fais comment pour on fait comment quand on a plein de projets sur les bras
Bah, faut juste donner les bons délais. C'est une question de délai. Tu dis, ouais, bon, celui-là dans 4 mois, celui-là dans 8 mois, celui-là dans...
D'accord. Et tu les travailles les uns après les autres sur des périodes assez longues, alors.
Mais j'ai du mal à... J'aime bien un peu passer de l'un à l'autre, parce que je m'ennuie assez vite sur un seul projet, donc j'aime bien... Vu que c'est pas les mêmes techniques graphiques et narratives, donc ça me permet un peu de passer de l'un à l'autre. Donc, c'est chouette, quoi.
Wow. Et alors, vous travaillez dans le même atelier, tous les deux?
Depuis 2 ans, un atelier, là, on est 6 dedans, tous à faire de la BD. Vous non.
Vous n'êtes pas que face à face toute la journée, toute la soirée.
La pauvre. Ce serait horrible.
Okay. Non, justement, c'est bien d'avoir d'autres gens.
Donc, comme on a la chance de tenir un couple de dessinateurs, du coup, j'ai posé une question genre, et quoi, est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? Je ne te regarde même pas toi, je te regarde...
Ah non, mais on les fait... En papier, donc il n'y a pas besoin de faire gosses.
Leurs enfants, ce sont leurs œuvres.
Il faut regarder les sites néo-malthusiens sur la non-perpétuation de l'espèce, c'est vachement cool.
C'est vrai qu'on est
pour les adolescents et pour les autres.
Et pour les adolescents surtout.
C'est vrai que les BD, ça ne travaille pas à 6h du mat. C'est pas mal.
Ça peut, mais
c'est ton vrai, ça peut.
Ok, alors on va tout doucement s'approcher de la fin. On voudrait d'abord connaître un petit peu ta bande dessinée oubliée, notre ami.
Alors c'est pas vraiment oublié, mais j'avais pas mieux à proposer. Donc c'est Arc de Andreas, dont on m'a offert à Noël le premier tome qui m'avait laissé assez perplexe. Je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est? Ok, ouais, des masses de noir, des cases un peu verticales. Et en fait, c'était vachement bien, quoi. Moi, je trouvais ça terrible. Il y avait d'un côté... tous les codes de différents types de narration, donc tu avais un peu du polar, un peu du Zola comme ça, et d'un coup ils arrivaient dans un monde avec des monstres.
Waouh, du polar, du Zola.
ouais. En fait, il y a cinq héros, et chaque héros avait une espèce de code d'histoire comme ça. Donc d'un côté c'était roman noir, de l'autre côté un peu social, et ils se retrouvaient tous envoyés dans un autre monde, et chacun représentait une espèce de systèmes de pensée différents. Donc il y avait des gens violents, des gens plus maternels, machin. Et voilà, il y a des cases vachement verticales et puis des couleurs à l'aquarelle, je trouvais ça trop cool.
C'est un auteur récent, moi j'y connais rien. Donc,
Andreas, il a commencé dans les années 80.
Ouais, et cette BD-là date de...
Parce que... 97, je crois.
Ah oui.
Mais c'est hyper cool, il faut continuer à les lire, ils sont trop bien. Quoi.
Ça fait un peu... Je sais pas si je peux m'engager sur ce terrain, si j'y connais rien, mais ça fait un peu années 70, comme ça fait penser à...
Ah, mais il a peut-être commencé dans les années 70, à la limite.
Je sais pas.
Mais en tout cas, les derniers tomes, ils sont trop bien. Parce que ça continue, c'est des mecs qui font genre 18 tomes de BD, quoi.
Ça oui, ça. Andreas, c'est un auteur qui était une espèce de mini-star des années 80. Puis il y a eu une période un peu d'oubli. Et là, on dirait qu'il a changé de cap dans son propre boulot. Qu'il s'est dit, bon, il faut plutôt que d'essayer de faire la bande dessinée magistrale qui va déchirer et qui va faire un avant et un après. Je vais plutôt tracer et faire des bandes dessinées un peu à la chaîne dans lesquelles je relâche un peu le style, mais où je produis plus.
Et assez bizarrement, aujourd'hui, au moment où on reparle de lui, il commence à revenir à ce qu'il faisait au début, quoi. Là, les derniers tomes d'Arc sont entièrement en noir et blanc, par exemple. Et il revient à ce qu'il faisait la période de Rourke et compagnie. Donc, comme si il y avait une espèce de parenthèse un peu ratée pour lui et qui aujourd'hui, il revient avec plein de force, quoi. Puis aussi, le fait de le rencontrer, on l'avait rencontré à Quai des Bulles et c'était quelqu'un qui avait l'air équilibré pour un vieil auteur de BD. Ça faisait plaisir de voir un mec qui n'était pas tout cracra, quoi. Il était assez dandy comme
il
ça.
Il porte c'est, bien, il est...
C'était cool.
Ouais. Il présente bien.
Je ferai gaffe en Gouem, je regarderai les vieux auteurs, je regarderai s'ils sont cracra.
Ah, il y en a quelques-uns.
Fais attention, parce que tu risques de t'approcher
pas trop près, ouais.
D'autres vieux auteurs qui sont beaucoup moins recommandables. Attention.
Oui, ça, vieillir en tant que dessinateur de bande dessinée, c'est une angoisse récurrente. Moi qui suis professeur, par exemple, j'ai l'angoisse du vieux prof, donc dépressif, alcoolique et complètement haï de ses... Enfin non, méprisé de ses étudiants.
Ils seront juste indifférents.
Et cochons aussi.
Oui, indifférents, c'est pire encore. Ouais.
Prof cochons.
Oui, prof cochons. Ou ma baladeuse et tout ça. Et les dessinateurs de bande dessinée, on voit déjà bien. Il y a les dépressifs.
Alcooliques.
Il y a les vieux cracras, donc ceux qui s'enfoncent, les asociaux, donc les gens qui savent...
Oui, ceux qui haïssent la terre entière. Ouais. Et ouais.
Il y a ceux qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui font des trucs très mauvais alors qu'ils étaient pas mal avant.
Et on n'a pas encore de modèle de vieille dessinatrice de bande dessinée.
Moi, je crois très fort en Claire Bretécher.
Ah oui.
Ouais.
Bah, on a cité Myriam Katine là tantôt.
Oui, mais elle ne vaut pas parce qu'elle est arrivée
sur le tard.
Elle est jeune, certes.
En fait, le monde est plein d'espoir. Je pense qu'on ne va pas commencer à évoquer tout ça. En tout cas, pas pour terminer, je pense.
Oui.
Terminons plutôt sur un petit morceau de musique. Il y a tout un agenda disponible avec plein de choses, aussi bien des concerts que des dédicaces dont on pourra reparler le mois prochain. Enfin, il y a des bouquins qui sont concernés, mais donc plein de choses sur l'agenda qui est sur le site. Et puis on va terminer
avec le morceau de musique.
Alors il s'appelle November 2013 par Moonface, et en fait c'est un petit slow. C'est pour là en ce moment, si vous écoutez ou si vous l'écoutez en podcast, qu'en face de vous il y a un homme ou une femme ou n'importe, ou vous pouvez un peu commencer à vous dénuder, et puis peut-être qu'il va se passer quelque chose enfin, quoi.
À tous les adolescents qui nous écoutent.
Voilà. Et les autres aussi.
Eh bien, Thomas, merci beaucoup pour cette invitation. Léonie, merci.
Merci à vous pour votre accueil.
Philippe, Johanna.
Bonne soirée.
Eh bien, bonne soirée à tous. Et on se retrouve le mois prochain, après Angoulême, pour parler de nos déceptions et amours de ce fameux festival.